shouldn't want you, I shouldn't need you, but I'm afraid that's not up to me. Cause when I hear you sing through my speakers, it's like my mind takes a hold of me. I've tried shutting you off for some time now, but I'm still hearing your voice in my head. Oh, I wish I was more than your fan now, and that your voice came from here in my bed. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones, singing to me. You're in my headphones, baby, in my headphones, baby, in my headphones, making me bleed. You're in my
c'est à moi là. Ah, il faut que j'appuie là. Il faut que j'appuie là. Ah, ça marche. Heureux de vous retrouver ce mercredi matin, les petits amis, pour parler d'actualité, pour faire une petite revue de presse. Mais c'est un 3 à la suite, mesdames et messieurs, puisque lundi, matinée Étienne. Lundi après-midi, un petit peu de Valo. Mardi matin, matinée Étienne. L'après-midi, un petit peu de Valo. Mercredi matin, c'est maintenant la matinée Étienne avec une petite surprise. Une petite annonce. À 11h30. Et peut-être cet après-midi, un petit peu de Valo aussi. Ça va, vous? Ouais. Ah bah oui, bah c'est le titre de ce stream. La matinée Étienne, on lit les journaux et à 11h30, petite annonce. Ça essaye de deviner. Oui, c'est la vidéo dont je vous ai parlé hier. Ce serait une petite annonce en forme de vidéo, puisqu'en fait, à vous, je peux vous le dire, parce que c'est la commu, hein, c'est la famille. À 11h30, à vous en avant-première, bah, je présente ma nouvelle émission sur Twitch. Ma nouvelle émission sur Twitch, que les modérateurs connaissent, eux, depuis un moment, puisqu'on travaille dessus depuis... Ça nous a demandé pas mal de boulot. Et donc, ça arrive, là, ça arrive. Ça arrive, là, la rentrée. Voilà. Et ça va être sympa. Voilà. Donc, c'est pas... Non, je vais pas à Matignon. Non, j'annonce pas... ma candidature à la présidentielle, non, je sais pas quoi encore. C'est une nouvelle émission sur Twitch, sur ma chaîne Twitch. Voilà. Ok, 11h30. Oui, ça me plaît, va reprendre aussi. Adélaïde, ça me plaît, va reprendre aussi. Ouais. Oui, la présidentielle, c'est un goal de la The Event, exactement. Du The Event, d'ailleurs. Bon, je dis le. Ouais. Nouvelle démission, il devient DJ. Non, ça non, ça non. Ça va, vous, sinon ? Merci, Vicky11, pour le soutien, pour ce 11e mois d'abonnement. C'est beaucoup, tu régales. Merci beaucoup. Annulez vos réalisations. Ah oui, Sugar Frog a raison. Annulez vos réunions Teams de 11h30, bien sûr. Non, c'est pas un goal de la Zidane, c'est un goal du The Event. Pépin Camille, merci pour ce 37. Je crois que tu es la première que je vois atteindre les 37 mois d'abonnement consécutif. Le plus haut niveau précédent, c'était 36 mois, c'était 3 ans. Je crois que tu es la première. Ouais, 37, je crois que tu es la première. Tu es la première. Ouais, bah oui, d'ailleurs, tu as le badge avec que Camille a, qui est devenue modératrice. D'ailleurs, le badge avec le 1, là, c'est le badge que qu'ont les premiers à avoir follow ou sub la chaîne, je ne sais plus. Voilà, donc voilà, 30, c'est logique, c'est logique. Ouais, fondateur, le badge fondateur. Les 10 premiers à sub, voilà, les 10 premiers à sub. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. C'était le 28 août, me dit Camille. Voilà. 37 mois d'abonnement consécutif. Si ça, c'est pas du soutien. Merci donc, Pépin Camille. Merci, Merzette également, pour ce 12e mois d'abonnement. Un an, nom de Dieu. Odobi, merci pour le soutien. Autrebs, merci beaucoup. Moi, je suis fauché, il n'y a pas d'abonnement, mais peace, Mathias. Tu es le bienvenu parmi nous. Tu soutiens en participation et c'est déjà très bien. J'ai vu l'hebdo, j'avais raté l'attaque du cochon. Pas la ref là. Ah, tu parles du best-of hebdo dans lequel, dans Elden Ring, je me fais attaquer par des cochons. Ah oui, ça doit être ça, je pense. Sinon, je l'ai pas. Merci Azarn01 pour l'abonnement offert à Mathias, par ailleurs. Bon, comment ça va, vous ? La santé ? Le travail, c'est important le travail. C'est important le travail. Ça n'est pas tout le travail. La vie pro, ça n'est pas tout, mais c'est important. C'est important pour être bien dans ses pompes, voilà. Pour faire d'autres trucs à côté et tout. Dans l'occasion d'en reparler. Doc Jordan, je t'ai envoyé un petit message sur Twitter. PS, c'est une proposition sérieuse, même si mon message peut donner l'impression inverse. Doc Jordan, je vais aller voir. Si c'est sur l'histoire des pieds, les photos de pieds, là, je suis en train de te répondre. Je suis en train de t'envoyer des photos d'ailleurs. Santé, ok. Travail, ok. Amour, question suivante, me dit Groom Groomx. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Encore en vacances du côté de Daldaren. On reprend les cours d'ici une semaine, ici vivement du côté de Polaris. Bientôt les vacances, je compte les jours pour Pineapple Love Hates. Arrêt maladie depuis un an, donc travaille pas ouf. Hécatombe, on t'envoie de la force. Hécatombe, ça va Hécatombe, je suis heureux de te voir là. Ça va ? Seul au bureau, Nono, la chance, c'est bon ça. En vacances à Millau cette semaine, on profite en famille. Caroxys, jolie région, notamment pour courir, pour faire du sport. Je me rappelle d'un petite course. Hop, 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 le raid de Joe. Joe, merci pour le raid. Joe, mon ami. Joe, tu as vu peut-être qu'à 11h30 ce matin, j'annonçais. Personne ne sait, sauf les modos et Joe, il sait aussi. Ma nouvelle émission sur Twitch. Faut rien dire. Hein. Travail, mais ça va, mais les news poétiques me foutent en colère, me dit Grande Nolive. Ça tombe bien, on va en parler ce matin. Merci, ça va, Joe. J'ai regardé la vidéo sur les Foo Fighters au moins 10 fois depuis hier matin. Elle est bien, cette vidéo, Quentin. Hein. Content de te l'avoir fait découvrir. Ah oui, et oui, question pour un champion, passant 7 jours sur 7 exactement, ouais. Alors c'est mignon, oh, c'est trop mignon. Alors c'est trop mignon parce qu'hier, on a annoncé avec Fremantle, le producteur de l'émission, que cette question pour un champion qui était en 6 jours sur 7, du lundi au samedi, passé à la rentrée en 7 jours sur 7, et j'ai eu plein de commentaires trop mignons sur les réseaux, sur Twitter, sur TikTok aussi, en mode « Ah !» Mais tu vas moins streamer. Alors, pas du tout. En fait, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que 7 jours sur 7, bah, ça veut dire que, vous savez, les questions pour un champion, comme tous les jeux, ça s'enregistre. Salut Evoxia. Ça s'enregistre en rafale. Hein Ça permet de baisser le coût unitaire de l'émission. Tous les jeux fonctionnent comme ça. Et donc, moi, en fait, je tourne 6 à 7 jours par mois, plutôt 7 jours en général. Et j'ai eu 6 émissions par jour. Donc, de passer en 7-7, bah, ça rajoute 4 émissions par mois. Donc, ça fait une grosse demi-journée de tournage en plus, quoi. Tu vois ? Donc, en vrai, non, je ne vais pas streamer moins. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, soyez rassurés là-dessus. Au contraire. Voilà. D'où l'annonce de 11h30, d'ailleurs. Soyez là à 11h30. Merci, Étienne. Reprise vendredi, je me réveille avec Hello de Oasis depuis l'annonce d'hier. On va parler d'Oasis ce matin, parce qu'il y a des articles dans la presse ce matin. Il y a un article de Billy Bonbard, non, pour répondre à ta question, non. Ouais. Non, Lia Tuc, pour répondre à ta question, non. Hélas. Xov, non pour répondre à ta question, hélas. Framboise, non pour répondre à ta question, hélas. C'est comme ça. Ce serait bien. Hein. Ce serait même logique, mais non. Voilà. Donc, soyez là à 11h30. Oui, Arti, dans le Parisien, dans Libération sur Oasis. Ah, c'était bien le raid d'hier. Super. Trop bien. Vers Madame Poulpi. Elden Ring, on va reprendre imminemment Black Storm. C'est juste que je suis coincé sur un boss et ça me fait peur d'y retourner, mais on va y retourner, t'inquiète. Bien, puis je suis un peu accro à Valo aussi. Ouais. Ça va, Sugar Helio ? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre en place question pour un champion 7 jours sur 7 ? C'est une très bonne question de Lucumdor. Alors, tu vas rire, c'est tout bête. En fait... C'est une très bonne question. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour passer question pour un champion 7 jours sur 7 ? Bah d'abord, en fait, c'est une décision qui ne m'appartient pas, tu imagines bien. Hein, c'est une décision de France Télévisions. Et en fait, c'est vraiment un truc très prosaïque, hein, c'est stupide. En fait, on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait 7 jours dans la semaine. Voilà, on était parti sur des vieux bouquins, mais totalement périmés et qui nous affirmait qu'il n'y avait que 6 jours dans la semaine, en fait. On n'avait pas les bonnes infos, en fait. Et puis un jour, on a fait une réunion, parce qu'on fait beaucoup de réunions. On a fait une réunion et à un moment, quelqu'un a dit, mais attendez, un stagiaire, je crois, qui arrivait et qui nous a posé cette question, mais pourquoi vous n'êtes pas en 7 jours sur 7 ? Tout le monde a ri autour de la table. Tout le monde a ri autour de la table en disant, mais il est foufou, le stagiaire. Comment ça, 7 ? Il n'y a que 6 jours dans la semaine. Et là, il nous a regardé avec des yeux très, très grands, très grands comme ça. Et il a dit, ben non, en fait. Il y en a 7. Et alors, on a vu son sérieux, on a été interloqué, on est allé vérifier. Il y avait 7 jours. Il y avait effectivement 7 jours. Et voilà. C'est comme ça qu'on est passé 7 jours sur 7. C'est con, hein ? Moi, c'est une dinguerie, ouais. D'où l'importance de bien s'informer, d'aller vers de bonnes sources d'informations. Voilà. Parce que cette info, en fait, que la semaine n'avait que 6 jours, on l'avait trouvée sur Facebook, à la base. Et en fait, ce n'était pas une bonne info. Ouais. Incroyable. C'est fou, ça. Donc, voilà. C'est tout bête, en fait, parfois, hein, la vie. Du coup, ils ont rajouté quelque chose. Bah, dimanche, on n'était pas au courant pour le dimanche, nous. Voilà, donc on a rajouté le dimanche. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un programme télé appelé Télé 7 jours. Exactement, le souffleur. Et en fait, ça m'avait intrigué, ça, Télé 7 jours. Et longtemps, je pensais que c'était une vanne, en fait. C'est-à-dire que c'était Télé 6 jours, quoi, bien sûr. Et je pensais que c'était une vanne. Voilà. Comme ce jour, 7 jours, en vieux français, tu vois, un truc un peu comme ça, une espèce de... Un titre un peu à la Libé, mais que je ne comprenais pas trop, tu vois. Qu'est-ce que vous faisiez alors le 7e jour ? Rien, j'enchaînais, moi. Moi, je passais du samedi au lundi. C'est très compliqué, d'ailleurs, parce que parfois, il y avait des lundis qui étaient très, très calmes au bureau. Je ne comprenais rien, il n'y avait personne. Alors, c'était agréable, ça roulait très bien dans Paris. Mais il n'y avait personne au bureau, les commerces étaient fermés, je ne trouvais rien à bouffer. Et maintenant, je comprends que ces lundis-là, c'était des dimanches, en vrai. C'est incroyable. Et tout s'éclaire, là. Je veux dire, il y a plein de choses qui se mettent en place dans ma tête, quoi. Voilà. Ah, après, je suis un peu décalé, ouais, c'est sûr. Du coup, Merci, Neoxys, pour le soutien. Bon, les amis, heureux de commencer sur ce sourire. Avant l'actualité, il vaut mieux. Quoi que ça va ce matin. De quoi je vais vous parler ce matin? Bon, bah, un petit peu la situation politique quand même, parce que même si certains trouvent que c'est pas grave, c'est un petit peu embêtant quand même ce qui se passe. Voilà. Donc, je vais vous en parler ce matin. Les dernières nouvelles, hein? Qu'est-ce qui a changé? Rien. C'est ça qui est drôle. Donc, Macron, Premier ministre, la gauche, la droite, le centre, l'extrême droite, tout ça. Regardez tout ça, ça fait rigolo. On va parler des Jeux paralympiques. Ouais. Qui commence ce soir avec les cérémonies d'ouverture. Vous savez que moi, je suis totalement hypé par les Jeux paralympiques. Voilà. Donc, ça commence ce soir. D'ailleurs, on devait jouer avec Evoxia. Elle devait me coacher ce soir et on ne s'était pas rendu compte que ce soir, c'était la cérémonie d'ouverture. Donc, finalement, on ne va pas streamer ce soir avec Evoxia. Ce soir, je suis devant ma télé. Voilà. Pour regarder cette cérémonie, c'est une façon pour moi d'être cohérent puisque je dis que ces Jeux paralympiques sont importants. Puis, je vais même aller les voir parce que samedi, je vais voir du basket fauteuil. Voilà. Il m'a dit qu'il me détestait, c'est pour ça. C'est pas vrai, Evoxia, tu le sais. Donc, on fera ce stream plus tard. Voilà. Donc, et puis, on parlera aussi d'Oasis et on parlera aussi. Oui. Parce qu'en fait, il y a plusieurs. Bon, il y a plein de thématiques auxquelles je suis sensible et certaines que je trouve qu'on n'expose pas assez. Les violences faites aux femmes. Et l'un de ces thèmes dont il faut parler davantage. Et ce matin, il y a une personnalité de télévision là, qui est jugée suite aux accusations d'au moins deux femmes, et on en parlera. Ouais, c'est Stéphane Plaza, oui, je ne sais pas pourquoi je ne le dis pas. Voilà. Ouais. Voilà à peu près. Mais je vais vous faire le sommaire, là, c'était pour vous hyper un petit peu. Nuage rose, bonjour, ma mamie vous aime beaucoup. Eh ben, j'aime beaucoup ta mamie, dis-lui. Voilà. Stéphane, pas là. Si, il est là. Enfin, il est au tribunal, si vous le cherchez. Ouais. Voilà. Accusé, mais pas coupable. Ah, bah, bien sûr. Nui Biron, bien sûr. Présomption d'innocence. On va entendre la parole des victimes quand même. Et on va voir ce que dit le Parisien à ce propos. Mon grand-père te regarde. Mon grand-père te regarde plus que ma grand-mère. Est-ce que ça veut dire que ton grand-père regarde plus Question pour un champion que ta grand-mère regarde plus Question pour un champion? Ou ça veut dire que ton grand-père me regarde plus moi que ton grand-père ne regarde ta grand-mère? Ce qui n'est pas la même info. Ah, pas pareil. Merci, Pasta Bretzel. Ça me donne envie de faire des spaghettis avec des petits morceaux de bretzel cassés dedans. Hein. La tendresse du spaghetti et le croquant du bretzel, ça va être bien dégueulasse, ça. Le CEO de Telegram, on en a parlé hier, Kivosis. Tu viens d'avouer à toute la communauté que tu n'étais pas à la matinée tienne hier. Ouais, ça n'est pas bien. Tu n'auras pas de gommette. Et on en a parlé hier. Tu l'as en replay, mon ami. Merci, Maddy, 99 Mado, pour le Prime. Bien sûr que je vais aller voir la France aux Jeux Paralympiques, j'ai mes billets pour samedi. J'emmène les enfants et mon amoureuse. Le vrai bretzel, c'est moelleux, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. J'aime pas quand il y a des grains de sel dessus, là. J'aime bien, mais sans les grains de sel. Un indice sur l'annonce de 11h30, Sugarlio, ouais, banger. Ouais. Non, mais en vrai, c'est un projet, mine de rien, qui nous a demandé un an de développement. Je dis nous, parce qu'il y a une... vraiment le résultat du travail d'une équipe. Il y a un an de taf. Un an de taf. Donc je suis assez fier de ce que... À 11h30, il y a l'annonce de ma nouvelle émission sur Twitch. Voilà. C'est quoi Brawl Star? Mathias, t'as déjà essayé Brawl Star? Sait-on jamais au vu de la fantaisie en ce moment? C'est quoi Brawl Star? C'est quoi Brawl Star? C'est quoi Brawl Star? Un jeu? Attends, ça me dit quelque chose. Brawl Star. Brawl Star, jeu vidéo. Qu'est-ce? C'est bien ça? Un jeu téléphone? C'est un jeu mobile? C'est bien ça? Un jeu mobile genre... Genre LOL un peu. Attends, je pourrais avoir des... Voilà, il y a plein de trucs un peu OP là. Oh, c'est moche. Attends, est-ce qu'on va trouver une info de qualité là? Ouais, je cherche une info. C'est pas ouf. Je suis percé dans le même style que Clash Royale. C'est pas les petits bonshommes qui se baladent sur une map et ils se tirent dessus? C'est pas un peu ça? Des petits bonshommes un peu colorés? C'est ça? Bon, bah je connais. Je connais même très bien. Ok, j'étais pas sûr du nom. Je voulais vérifier. Ok, je le connais très très bien. Merci Mila Maxwell, merci pour le Prime. Mais savez-vous pourquoi je connais très bien ce jeu? Enfin, très bien sans le connaître, quoi. Bah oui, les enfants jouent. Voilà, Malo, 8 ans, a découvert Brawl Star par son tonton gamer Hugo en Franche-Comté. Voilà, et il est accro à Brawl Star. Voilà, ouais. Et bon, alors c'est très encadré chez nous, hein, parce que le jeu vidéo, on valide, bien sûr. Hein, c'est un univers qu'on aime bien ici, voilà. Et donc, il a le droit de jouer, mais de façon accompagnée et encadrée. Il joue pas tout le temps quand il veut, etc. Voilà. Mais, voilà. Donc, c'est un gamer, Malo, hein. Minecraft, Mario Kart, des jeux Pokémon, tout ça. Mais de façon encadrée, accompagnée, il y a un temps limité, etc. Voilà. Sauf que il a fait découvrir Brawl Star à son petit frère de 4 ans. Merci Toto pour le soutien. Voilà. Et alors, mamie Hélène, la grand-mère des deux enfants, du côté de mon épouse, qui les garde en ce moment en vacances, est en panique, parce qu'en fait, voilà, très addictif, c'est le problème, exactement, Anto. Le petit Solal, il est devenu totalement accro. Il ne parle plus que de ça. Il ne parle plus que de ça. Il ne parle plus que de ça. Et donc et là, tout de suite, j'ai fait le lien avec des articles que j'avais lus sur le fait que les cerveaux jeunes, en fait, sont encore plus sensibles à l'addiction. Voilà. Et donc on est la maman d'Hélène nous a mis en garde. Et là, très très vite, on est intervenu en expliquant à Solal que voilà, c'était pas une bonne chose. Il en parlait le matin, le midi, le soir. C'est très intéressant. C'est la démonstration qu'effectivement, les cerveaux des plus jeunes sont extrêmement sensibles à l'addiction, quoi. Quelle que soit l'addiction, d'ailleurs. Et donc, on a mis un petit holà et on a dit à Solal qu'il ne pouvait pas jouer comme ça. Voilà. Le problème, c'est que son frère trouve ça formidable, son grand frère de 8 ans. Il trouve ça formidable parce qu'il a trouvé un partenaire de jeu au quotidien et ils jouent tous les deux. Voilà. Et maintenant, on les appelle tous les jours en visio là, pour faire un petit point sur la journée. Et Solal, il nous dit « Ah, moi j'aime bien jouer avec Malo parce que… » Et puis Malo, il intervient, il dit « Oui, parce qu'en fait, quand il joue tout seul, il perd. » Alors qu'avec moi, il gagne. Voilà. Puis après, Solal dit, oui, mais alors moi, une fois, j'ai gagné une fois tout seul. Et Malo dit, oui, c'est vrai, une fois, il a gagné tout seul. Il ne parle que de ça. OK. Donc, on est en train de mettre un hola là-dessus et à expliquer à Solal qu'il ne faut pas qu'il joue trop, quoi. Et là, pas plus tard qu'hier soir, il a dit, bon, quand je vais rentrer à Paris, là, jeudi, les enfants rentrent, là, quand je vais rentrer à Paris, est-ce que le mercredi, il rentre en moyenne section de maternelle, là. Le mercredi, il a capté que mercredi, il n'y avait pas d'école. Est-ce que le mercredi, je pourrais jouer à Brawl Star? Et on lui a dit, c'est une discussion qu'on va avoir ensemble. On a prévu un conseil de famille à la rentrée avec les deux enfants pour justement leur expliquer, bah non, Solal, non, tu peux pas... Tu peux jouer aux jeux vidéo, mais de temps en temps, hein, Malo, il joue de façon très encadrée, certains jours, à un certain temps, avec des temps limités, etc. Quoi. Voilà. Donc, voilà. Vous me confirmez que ce truc est super addictif, quoi. Ouais. Voilà. Donc, enfin, on est sur ce dossier-là. Merci Corialis pour le Prime. Merci Denaco pour le Prime. Merci Nerd Factory pour ce raid de fou. Voilà. Ouais. Bon, pour le coup, c'est tonton Hugo qui a fait découvrir ça. Ouais. Alors, le seul truc positif dans ça, bon, d'abord, Malo me dit qu'il est très fort pour ses 4 ans, ce dont je ne doute pas. Enfin, il va pas devenir il va pas en faire un métier, hein. Champion de Franche-Comté de Brawl Stars, ça va pas nous mener très loin. Mais le truc sympa, il y a un aspect sympa, c'est que du coup, ça crée beaucoup de complicité entre les deux petits, parce que du coup, ils sont en mode, voilà, ils parlent beaucoup de ça tous les deux. Parfois, il y a 4 ans de différence entre les deux. Parfois, le grand, il a envie d'être tranquille, tout seul dans son coin, il fait ses trucs. Et ceux-là, ils rêvent que d'un truc, c'est de faire des trucs avec son grand frère, etc. Bon, bah là, subitement, Malo, il trouve ça formidable que son petit frère joue à Brawl Stars. Donc voilà, ça ils en parlent, ça crée une petite complicité sympa. Ça, c'est l'aspect positif du truc. Voilà. Ou alors il arrête l'école en moyenne section et il devient streamer Brawl Stars. Ainsi, il y a une pour les beats. J'y pense. Tu vois, je lui mets un petit setup à côté. Là, je prends la moitié des subs. Bah ouais, je lui prête le matos. Après tout, je vais voir s'il est bon ou pas. Les jeux, ah c'est mignon ce que dit Jérémy. Les jeux vidéo, c'est le ciment des relations frère-sœur. Bah là, ça crée quelque chose d'intéressant, ouais. Après, ceux-là, un petit garçon brillant, intelligent, gentil, doux, aimant, très doux, formidable petit garçon. Donc je pense qu'il est en capacité d'entendre le fait qu'on va lui limiter son temps de jeu sur Brawl Stars. Voilà. Depuis que je joue à League of Legends avec mon petit frère, notre relation a changé. En bien, Arushas ou pas ? En bien. C'est ma sœur jumelle qui m'a appris LOL. Oh, elles sont trop mignonnes vos histoires. C'est quoi cette histoire de famille sur le jeu ? C'est ma sœur jumelle qui m'a appris LOL. Me dit Ophélie. Le partage entre frères et sœurs, c'est important. Oui, Edromir, tu as raison. Oh, c'est la matinée des raids. On a un très beau raid de notre DJ préféré, l'ami streamer Martin, qui vient de nos raids. Merci Martin. On est en train de parler du jeu vidéo chez les jeunes, chez les enfants, notamment comme créateur de liens entre les frères et sœurs. Ouais. C'est mon grand frère qui m'a montré comment jouer à LOL. Mais ça joue qu'à LOL. Merci New Cat. Oh là là, il y a des histoires familiales qui débarquent dans le chat. La gutsy, le ciment. Ouais, après, quand ton frère te faisait chialer car discrètement il te disait de jouer à COD. C'est quoi COD? Call of Duty, c'est ça ? Ouais. Alors que tu n'avais pas le droit et te faisais chialer à pleurer en te tuant en boucle. Ah, les souvenirs. C'est drôle ça. C'est mon frère jumeau qui m'a appris comment on faisait les... Ça va pas, Nox. Je vais voir ton historique parce que c'est... 107 messages ? T'as réussi à arriver à 107 messages avec des messages comme ça et rester dans le chat ? T'es con, hein ? Attention, hein ? Il est fou, lui. Je vous lis pas le message. Les jeux vidéo, c'est le ciment de la relation avec mon petit frère depuis 40 ans, me dit Mélodie. C'est mon père qui m'a fait connaître Halo, me dit Quentin, trop mignon. Je joue depuis toute petite avec mon grand frère à la fois jeux vidéo et jeux de société, j'ai la passion des deux maintenant. Mon père me faisait jouer à Doom avec lui à 4 ans, fleur bleue. Merci Martin pour ce 23e mois d'abonnement, tu régales. Doom 4 ans ? C'est mon tonton qui m'a fait découvrir Pokémon, qui était mon premier jeu vidéo. Bah, chez nous, pareil, je suis Garelio. C'est tonton qui a joué ce rôle d'initiateur. J'ai initié ma compagne à Pokémon, elle était tellement chou à paniquer devant un Chenipot niveau 2. Le chou-fleur. Trop mignon. J'ai construit toute ma relation avec mon frère grâce à CTR. Apprendre Valo avec mon grand frère, c'était incroyable. CTR, c'est quoi ? Crash Team Racing. Ok, merci beaucoup. Et toi, Étienne, t'es un grand frère ? Non, moi, je suis le grand, moi. Voilà. Voilà, plus de jeux vidéo à mon époque, c'était pas pareil. Ok. T'as raison, c'est une bonne chose d'encadrer, me dit Skame. Merci, Samuel Ouraï. C'est comme Samouraï, mais Samuel Ouraï. Je valide ce pseudo. Merci pour le soutien. Samuel Ouraï, comme samouraï. Oh, tiens, je vais... C'est peut-être un futur pseudo pour moi, ça, sur des jeux. Samuel Ouraï. C'est joli, en vrai. Merci, Cleu64, également. J'ai rencontré mon meilleur ami à l'âge de 5 ans, un sympathisant en jouant à la SNES, Super NES. On a aujourd'hui 34 ans, on est comme des frères. Le jeu de la vie. Jouer à Outer Wilds avec ma femme, de grandes soirées d'aventure. Merci, le jeu de la vie, pour le 4e mois. Et donc, ce qu'elle me disait, t'as raison, c'est une bonne chose d'encadrer et surtout d'en discuter. Nous, gamins, enforcés de fou, mais on prenait pas le temps de nous expliquer ou même d'en discuter. C'était tu joues plus, bah interdire ça, encourage à le faire quand même. Ouais, exactement. Nous, on en parle beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, ils comprennent. D'ailleurs, Malo, par exemple, qui est vraiment un fou de jeux vidéo, hein, s'il pouvait, il jouerait toute la journée. Et en fait, on lui parle, on lui explique. C'est un enfant qui lit beaucoup par ailleurs, parce que j'ai essayé de le sensibiliser à la lecture très très tôt, et il comprend, donc il accepte le cadre qu'on lui donne, quoi. Voilà, là tu joues pas, là c'est tant de temps, c'est tel jour et pas tel jour, et il accepte, il y a une petite négo à chaque fois. Samuel, on s'est vu à Montpellier, attends, Grande Olive, je suis Théo, ok, j'ai dû partir précipitamment, mais sans spoiler. Ok. Hâte de voir tes plans narines. Ok. Hop, chut, on dit rien. Ok. Oui, il y a une histoire de plans narines. J'ai filmé l'intérieur de mes narines. Ok. On dit rien. Une histoire avec Montpellier bientôt. Ouais. Jérémy, j'ai des souvenirs incroyables avec mon frère et aussi des techniques pour contourner l'interdiction de 1 heure par jeu, de jeu par jour. 25 ans plus tard, on en rigole encore, c'est trop mignon. Ouais, ça me plaît ce que vous dites là. Mon deuxième grand frère m'a mis une manette entre les mains pour jouer à des jeux formidables comme les Dark Souls, la saga Mass Effect, les Elder Scrolls, Battlefield, Armored Core et j'en passe. Quand ton frère... Alors parfois il y a des mauvais souvenirs. Hein. Quand ton frère efface la sauvegarde de la partie de ton jeu préféré, même 30 ans après, ça laisse des traces. Trop mignon. Oh, on avait une Game Boy pour deux avec Pokémon dessus au départ. C'était une bataille, puis on a fini par coopérer avec mon frère pour tous les attraper. AT Baobab ou 8 Baobab. Oh, Zidane, mon grand frère éteignait ma manette et me disait que je jouais avec lui à FIFA alors que lui était en ligne. Oh, quel enfer! Oh le... Merde! Oh, c'est génial! Oh, j'adore cette histoire! Oh, les grands frères! Mon grand frère qui m'a fait découvrir Call of Duty à 10 ans. Et donc, c'est trop mignon. Bon, j'aime bien cet échange, ok, trop cool. Bah, vous voyez, ça me confirme dans l'idée que le jeu vidéo, encadré, accompagné, expliqué, voilà, ça peut être quelque chose de vraiment sympa au sein de la famille. C'est un créateur de liens entre mes deux enfants, mes deux petits garçons. Et c'est un créateur d'échanges aussi entre les enfants et les parents, parce que du coup, on en parle beaucoup avec eux. Ils nous montrent, ils savent qu'ils peuvent nous parler des jeux vidéo, nous expliquer. Donc, ils nous racontent toutes les aventures sur les jeux vidéo. J'ai battu un boss, je ne sais pas comment battre ce boss. Papa, est-ce que tu peux aller voir sur Internet comment battre ce boss? Et papa, et papi, et papa. Et ce jeu, il est Peggy quoi? Ah bah, tu pourras jouer plus tard. Bah, voilà, on parle beaucoup de ça. Et c'est pas mal en vrai. Voilà. Ouais. Bon. On se fait un petit sommaire de la rue de presse?
Well, yeah.
Vous êtes OK? Let's go, vous me donnez un petit go et je vous dis ce qu'il y a dans la rue de presse ce matin. Puis à 11h30, petite annonce. Enfin, grosse annonce. OK, c'est parti. Let's go. Allez, jingle. Ah oui, il faut que je fasse un jingle. Ah oui, j'ai un jingle maintenant pour la rue de presse. OK. Non, c'est le jingle pour le sommaire, pardon. Vous êtes prêts? J'appuie sur cette touche-là. C'est le sommaire. Voilà, c'est jingle. Donc, qu'est-ce qu'il y a ce matin dans les journaux? Ah ben, il y a un petit point sur la situation politique. Voilà. Alors, à la fois, c'est extrêmement intéressant et en même temps, ça peut se résumer. Oui, c'est un nouveau jingle. Assez simplement, on est toujours au même point. Vous vous rappelez quand il y a combien de dizaines de jours? Les Français sont allés voter, donc normalement les gens vont voter, se déplacent, prennent de leur temps pour aller déposer un bulletin dans l'isoloir dimanche, alors qu'ils pourraient aller, faire une sieste. Et donc ça a des conséquences politiques, et après il se passe des choses, on change le gouvernement, tout ça. Bon, eh ben il s'est rien passé. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Voilà. Et voilà. Et c'est assez passionnant. Pourquoi j'ai celui-là, ça? Ah, mais ça, c'est un article d'hier, celui-là. Je le supprime, hop, voilà. Et c'est assez passionnant, voilà. Donc, on va faire le point sur ça, voilà. Macron à la chasse aux alliés, bon, ça c'est le titre du Parisien. Bon, alors, je spoil, qui veut aller gouverner avec Macron ? Personne. Donc, ça, du coup, la mission est un peu compliquée. Le Figaro, après avoir écarté le NFP, donc la gauche, on va en parler encore ce matin, hein, Macron veut mettre la droite devant le fait accompli. Il veut forcer un petit peu la main à droite. La droite ne veut pas du tout aller gouverner avec Macron. Ils trouvent qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Voilà. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Voilà. Macron insiste. Et du coup, il y a des élus de droite qui disent « non mais arrête là, c'est gênant en fait. En fait, on ne veut pas, nous. » Voilà, on verra ça dans Le Figaro. La Croix, vous voyez, on change de journaux, mais c'est toujours la même histoire. La quête du gouvernement, toujours dans l'impasse. Voilà. Retour à cet article, vous verrez pourquoi. Voilà. Parce qu'en fait, quand je dis personne ne veut gouverner avec Macron, Macron, il a un espoir. Macron, il a un espoir. Il espère créer une scission au sein de la gauche pour que la gauche, avec qui lui, il veut bien faire une coalition, socialiste, écologiste, eh bien, se détache de LFI, quitte le NFP, quoi, pour s'allier avec les macronistes. Voilà, ça, c'est son espoir. Voilà. Et on lira quelques articles là-dessus. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que le PS pourrait quitter le Nouveau Front Populaire, voilà, pour s'allier avec les macronistes ? Olivier Faure, c'est pas lui, hein, c'est François Ruffin, mais il y a une interview de Ruffin dans Libération. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, dit « bah non ». Il l'a dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais il y a des gens au PS. Il y a des tensions au PS. Il y a des gens au PS qui voudraient discuter avec Macron. Voilà. Donc ça, c'est, du coup, ça crée un petit espoir chez Macron. Voilà. Libération, pour la gauche, c'est l'alu final. Hein, joli titre. Voilà, une interview, l'interview de rentrée de François Ruffin, ex-député LFI. Il a quitté LFI. C'est pour Libération, donc on verra le regard. C'est toujours intéressant de François Ruffin sur la situation. Voilà. Et Le Monde, qui est un journal sérieux, assez rigoureux, qui dit de façon très très claire, hein, qui dit les termes. Voilà, on est dans une situation politique aujourd'hui inédite et dangereuse. Non, pour ceux qui pensent que tout ça n'est pas très très grave. Voilà. Et tout qui dit le RN qui se frotte les mains en voyant ce bazar, mon ami, tu n'as pas tort. Voilà. Donc, on fera un petit point sur cette page politique, parce qu'il y a des choses assez intéressantes dans ce feuilleton, tout en faisant le constat que rien ne bouge. Voilà, je pensais aussi que dans l'actualité, il fallait attirer votre attention sur ce sujet. Stéphane Plaza qui comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris aujourd'hui pour répondre de violence sur deux ex-compagnes. Alors lui, il clame son innocence. Ces deux femmes, elles, sont catégoriques, voilà, et ce sera l'occasion, parce que je pense qu'on n'en parle jamais assez, de parler des violences faites aux femmes dans notre société. Voilà, donc je vous ai mis ça aussi de côté. On est au-delà d'un fait divers, hein. On est sur l'illustration d'un fait de société. Grosse page, parce que ça me hype totalement, sur les Jeux Paralympiques, voilà. Vous vous rappelez des interrogations, des doutes, de manque de hype chez certains autour des Jeux Olympiques. Finalement, ça a été, on doit le reconnaître, une grande réussite globalement et tout le monde a été assez hypé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, ça pourrait profiter aux Jeux Paralympiques qui pourraient être la plus belle édition des Jeux Paralympiques jamais organisée. C'est la première fois que la France organise les Jeux Paralympiques d'été. Il faut reconnaître, a priori, ça semble bien préparé, aussi bien préparé que les Jeux Olympiques. Donc, ça sent bon, même si restons prudents. Je pense qu'il faut attendre que ça se déroule, hein. De la même manière que plusieurs mois avant les Jeux, je disais aux gens qui disaient que ça allait être nul, ben, bravo, mais je ne sais pas comment tu peux l'affirmer. Attendons les Jeux et on verra. Voilà. Et pour ceux qui disaient que ça allait être formidable, je disais ben, bravo à toi, mais je ne sais pas ce qui te permet de le dire. Attendons les Jeux et on verra. Puis on a vu et on a vu. Pour les Jeux Paralympiques, c'est pareil, ça sent bon, mais attendons. Deuxième manche donc, 12 jours de plaisir en plus, ça n'est pas le nom d'un film un petit peu bizarre, mais c'est bien le titre du Parisien pour annoncer cette séquence paralympique. Voilà, on va se pencher sur la cérémonie ce soir, cérémonie, oui, titre. Je l'ai faite avant vous, hein. On le fait pour le plaisir. Voilà, 12 jours de plaisir en plus, titre, bien sûr. Sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques qui s'annonce plutôt sympa, voilà, cérémonie d'ouverture qui a coûté, voilà, a provoqué l'annulation brutale, assez triste, voilà, assez violente,
du stream que j'avais prévu avec Evoxia ce soir sur Valorant, puisqu'on avait oublié que c'était la
cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. Et comme Evoxia et moi, on est très hypés pour cette cérémonie, on s'est dit que on n'allait pas faire le stream parce qu'on allait regarder cette cérémonie. Pas ensemble, hein. Je regarde avec mon épouse. Voilà. Bon, Evoxia, ce sera pour une autre fois. On se penchera aussi sur certains des para-athlètes. Je suis assez heureux et fier d'ailleurs parce que sur ma chaîne Twitch, j'en ai reçu plusieurs ces derniers mois parce que je ne suis pas hypé depuis deux jours par les Jeux Paralympiques. Je trouve que la question du handicap et de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société, c'est un thème majeur. Donc, c'est important pour moi. Et j'ai reçu sur Twitch plusieurs des chances de médailles de ces prochains jours, notamment Nantenin Keita, hein, qui est une sprinteuse, voilà, qui a un souci aux yeux, qui est malvoyante, voilà. Et donc là, il y a son portrait parce qu'elle est porte-drapeau. C'est comme ça qu'on dit porte-drapeau ? Non, c'est ça, porte-drapeau. Hein, ils sont deux avec Alexis Anquincan qui est le paratriathlète. C'est porte-drapeau ? C'est comme ça qu'on dit ? Je dis pas de bêtises ? Je sais que vous avez. Oui, c'est porte-drapeau. Voilà. Donc Nantenin Keita qu'on a reçu, certains s'en rappellent peut-être. Sur cette chaîne, et qui nous parlait des Jeux Paralympiques, justement, elle est porte-drapeau. Et ainsi que, d'ailleurs, Nelia Barbosa, qui est une kayakiste, voilà, et qu'on a aussi reçue, et qui est aussi une chance de médaille pour la France. Bon, on se penchera sur certains de ces para-athlètes, les Jeux Paralympiques, pour prolonger la ferveur. Vous voyez que c'est la une de beaucoup de journaux ce matin. Merci au Figaro, qui est très pédagogique, et qui propose un encadré très bien fait sur le vocabulaire, hein. Quels mots utiliser, para-athlète, il donne des exemples d'ailleurs, pour les sports par exemple, on dit, c'est sur les sports, voilà, on dit pas para-volleyball, on dit volleyball assis, voilà. On dit pas para-tennis, on dit tennis fauteuil. On ne dit pas rugby assis, on dit rugby fauteuil. Voilà. Donc il faut faire attention aux mots, et y compris aux mots quand on parle des personnes en situation de handicap. Et puis il y a le système de classification, parce qu'en fait, par exemple sur le 100 mètres, hein, la discipline reine en athlétisme, sur le 100 mètres, en fait, il y a 30 finales du 100 mètres. Il n'y a pas une, il n'y a pas deux finales du 100 mètres, hommes et femmes, il y en a 30. Il y en a 30 parce qu'en fait, eh bien, les handicaps sont différents et il y a des classifications. Donc ça, c'est un peu mystérieux, c'est avec des lettres, des chiffres, T6, SB4, C5. Voilà. Donc c'est pas du tout des problèmes de rhumatisme avec vos lombaires, tout ça. Non, en fait, c'est des classifications, donc c'est un petit peu mystérieux parfois pour le grand public. Et bien, le Figaro nous explique ça très bien. Et puis aussi, il y a des sports totalement, souvent pas très bien connus, on va dire, comme le cécifoot, le goalball, ou la, j'espère que je prononce bien, la boccia, comme on dit, qui sont des jeux exclusivement paralympiques et que le Figaro nous présente. On dit la boccia, vous l'avez vous pas? Boccia, ok super. Comment vous savez ça vous? Ils savent tout. Communauté de fous. Ok, boccia. Voilà. C'est la une de l'équipe, voilà. Donc beaucoup de une là-dessus ce matin. Je ne suis pas le seul à être hypé par les Jeux Paralympiques. Voilà, et très bel édito de Lionel Dangoumo, directeur de la rédaction pardon, de l'équipe, qu'on a reçu d'ailleurs sur cette chaîne Twitch il y a quelques semaines. Voilà, sur ces héros comme les autres. Voilà. On reviendra aussi, je suis toujours dans le sommaire, sur la reformation d'Oasis, puisqu'on l'a appris hier matin, la confirmation. Et là, on en a un petit peu les coulisses. Voilà. Donc, le Parisien se réjouit de la reformation de ce groupe britannique mythique, que personnellement, j'aime bien. Et il nous révèle les dessous d'un comeback. Une pleine page, quand même. Voilà. Libération dit non, on ne va pas être hypé. Alors, Libé, ils ont un parti pris. Olivier Lam, qui est chef adjoint du service culture, il dit, écoutez, je veux pas être hypé par ce groupe qui est, comme le dit Tonton Buzz, le groupe le plus surcoté au monde. Alors, c'est l'avis de Libé, c'est pas mon avis, mais je peux l'entendre, hein, c'est très subjectif, on est dans le domaine de l'art, de la musique. Voilà. Mais surtout, le journaliste, il dit, bon, c'est pour la thune, quoi. C'est pour la moula, quoi. Combien ils se font, là? Non, c'est le Parisien qui le dit. C'est où les sous, là? 50 millions de livres. 59 millions d'euros
pour la série de concerts là, en Grande-Bretagne. Voilà. Et du c'est pour la thune. Et puis surtout, le journaliste de Libé était, il dit, bah, dans l'histoire des groupes qui se reforment, voilà, hein, des groupes mythiques qui se reforment, pour et ça donne un bon résultat, il n'y en a quasiment pas eu. Il dit, c'est toujours pour de mauvaises raisons, c'est toujours naze, c'est toujours réchauffé, c'est toujours mou du genou. Voilà. Donc en fait, le journaliste de Libé, il invoque l'histoire de la musique pour dire, en vrai, voilà. Et il dit, voilà, faut pas, les vieux groupes, il ne faut pas qu'ils se reforment, quoi. Voilà. Voilà, donc je vous lirai ça, puis vous me direz votre avis. Voilà pour le sommaire, c'est pas mal ou pas? Vous en pensez quoi? Petit sommaire à la cool ce matin. Hein? On attend que MJ se reforme. Alors c'est quoi MJ, Toultoul? MJ, je l'ai pas. MJ, c'est quoi? C'est qui MJ? Mary Jane? Michael Jackson? Mais il ne peut pas se reformer, c'est pas un groupe. C'est vrai, qu'est-ce qui devient d'ailleurs? Merci Didou pour le Prime. Il ne peut pas se reformer, c'est pas un groupe. Ah, Malo m'écrit. Malo, maintenant. Sur son iPad. Qu'est-ce qu'il me parle de la Game Boy? Il me parle de la Game Boy. Les enfants ne me parlent que de jeux vidéo, quoi. Bonjour, je comprends rien ce qu'il me dit. Bonjour mon Malo, ça va? Un petit cœur. C'est dialogue de sourd. Je lui demande comment ça va, il me parle que de jeux vidéo. Il me parle de sa Game Boy, je comprends rien. Mais ça n'existe plus la Game Boy. Je comprends rien. Il n'y a pas de Game Boy. Je comprends rien. J'ai oublié. Et puis parfois il fait des petites fautes de frappe. J'ai oublié le bol de la mini Game Boy. C'est quoi le bol? Ça veut rien dire. Bonjour papa, ça va? Ça c'est gentil ça. Ça va très bien. Ça va très bien. Oh, tu t'es levé à quelle heure? Oh. Très bien. Je me suis levé à 5 heures. Je mets hâte de vous retrouver tous les deux, qui reviennent jeudi. Trop gentil. J'ai deux petits garçons qui sont vraiment gentils. Voilà. Le câble! Le câble de la Game Boy. Ah! Mais ça existe la Game Boy? Ça existe encore? Pour rien. Je suis perdu. Et là, il m'envoie une photo de Solal, 4 ans, sur sa tablette. Attends, j'ai une vidéo. Il y a Malo qui balance et qui filme son frère, voilà, et qui met lui dès le matin sur sa tablette. Et là, je mets, il ne faut pas que Solal joue trop aux jeux vidéo. J'essaie de le responsabiliser. Ça balance. Oh, j'adore. Il est trop jeune. Il est trop petit. Alors mon soleil, il est accro là. C'est là. C'est l'addiction là. Quel enfer. Et il rigole. Pff, quelle famille. Ah, quelle famille, nom de Dieu. Bon, allez, c'est parti pour la revue de presse. On y va? J'ai votre yes, j'ai votre go.
Yes.
Ok, c'est parti. Bon, vous avez eu le nouveau jingle du sommaire. Et voici le jingle de la revue de presse. C'est la revue de presse. Voilà, c'est bon. Situation politique, je pourrais vous résumer ça d'une phrase. Il ne se passe rien. En fait, non, c'est pas ça. Il se passe des trucs, mais rien ne bouge. Hein. Macron à la chasse aux alliés, on va commencer par ça. Article dans le Parisien, le président de la République tente de construire une coalition gouvernementale avec la gauche, hors France Insoumise.
et avec la droite, sans succès à ce stade. Bon, le Parisien nous dit de façon extrêmement élégante qu'on n'est pas dans la merde. Après avoir balayé l'option Lucie Castex, candidat du Nouveau Front Populaire pour Matignon, le chef de l'État est désormais en quête d'alliés pour bâtir une coalition alternative. Bon, ça dure depuis un petit moment. Hein. C'est bien l'objectif de deuxième cycle de discussion hein, qu'il a entamé mardi. Problème, écrit le Parisien. À ce stade, le président peine à élargir le bloc central. Le Parisien nous dit de façon assez élégante qu'il n'y arrive pas du tout, en fait. Alors que le président nourrit toujours l'espoir de décrocher les socialistes du NFP, Olivier Faure, premier secrétaire du parti, refuse tout net de poursuivre les échanges depuis l'officialisation de son opposition au gouvernement Castex. Macron a dit « Venez les socialistes, on va rediscuter. » Excusez-moi, c'est les enfants. Oh, il y a une deuxième vidéo. Ah, il joue pas, il fait des vidéos. Non, c'est bon, ils font des photos. Ça va. Ils sont dans un moment créatif. Je croyais qu'ils jouaient. Ok, tout va bien. Attends, excusez-moi, j'écris aux enfants. Vous prenez des photos ? Donc, Olivier Faure refuse tout net de poursuivre les échanges. Hein. Il dit, moi, je ne retourne pas à l'Élysée. Bien sûr, Mino Sicard, ça vient de là. Tu l'as deviné. On ne retourne pas à l'Élysée puisque vous avez refusé de nommer Lucie Castex à Matignon. Pas question pour le premier secrétaire du PS de se rendre, dit-il, Olivier Faure, complice d'une parodie de démocratie et de jouer les supplétifs d'une Macronie finissante. Hein, ça a le mérite d'être clair. Et la droite alors ? Bon, puisque la gauche, elle semble un petit peu bouchée. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça peut bouger. Non, il a une application pour prendre des photos drôles. Il n'est pas sur sa tablette presque toute la journée. Voilà. Excusez-moi, je ris. Ses enfants. Bon là, il est tombé sur un truc où il faut payer l'argent et tout. J'en peux plus. Et à droite alors ? À droite. Hein ? Parce que pour faire une coalition, bon, le président Macron dit je pourrais prendre un peu à gauche, prendre un peu à droite. Et à droite, les lignes vont-elles bouger ? C'est pour le moment peu probable, écrit le Parisien. On pourrait s'arrêter là. En même temps, je trouve que ce feuilleton est assez passionnant. Le Figaro maintenant, après avoir écarté le NFP, Macron veut mettre la droite devant le fait accompli. Comprenez que la droite jusque-là a dit, répété, re-répété encore qu'elle ne voulait pas, je parle de la droite républicaine, de LR, Laurent Wauquiez, à la tête, gouverner avec Macron, s'allier avec lui, quoi. Et il insiste. Les cadres des Républicains seront à nouveau reçus mercredi, c'est quand mercredi, c'est aujourd'hui. Emmanuel Macron chercherait-il à faire porter à LR la responsabilité d'une impasse politique en mode « Ah là, vraiment, vous n'êtes pas bien, la droite, c'est un peu à cause de vous, moi j'ai un projet, vous ne voulez pas me soutenir voilà. ». Cela donne en effet cette impression, souffle un poids lourd du parti LR, il essaie de nous mettre dans la seringue, de nous faire porter le chapeau, s'agace d'ores et déjà un parlementaire. Hein, parce que Macron dit « Bon, les gars, les gars à droite, vous avez vu, j'ai fait mon boulot, hein. J'ai barré la route à la gauche, donc maintenant, assumez vos responsabilités, vous venez avec moi, et puis on fait une grande coalition, même si d'ailleurs, si tu prends les élus macronistes et les élus de droite, ça ne suffit pas de toute façon, ça ne suffira pas, ça ne fait pas une majorité, même pas relative forte. » Et la droite dit bah, « Non, c'est un peu bloqué cette histoire, c'est un peu bloqué cette histoire. » La Croix ne dit pas autre chose, la quête d'un gouvernement toujours dans l'impasse, voilà, avec plusieurs questions. Peut-on parler d'un déni démocratique ? Ah, ça c'est un sujet important. Alors, La Croix a écrit de nombreuses figures du Front populaire parlent d'un déni démocratique, hein, rappelant qu'en nombre de sièges, c'est la coalition de gauche qui est arrivée en tête au second tour des législatives. Voilà. Et donne la parole à un spécialiste de droit public qui s'appelle Mathieu Carpentier qui dit deux choses. D'un point de vue constitutionnel, hein, sur le plan du droit constitutionnel pur, il n'y a pas de déni de démocratie parce que la Constitution ne donne pas une limite de temps, une obligation de temps au président pour former un gouvernement après des législatives. Mais dans l'esprit, non pas dans le texte, il dit ce même monsieur Mathieu Carpentier. Comment être le leader d'un bloc à l'Assemblée tout en prétendant être un simple arbitre veillant à la continuité de l'État ? C'est toute l'ambiguïté de la Ve République dont on voit aujourd'hui les effets néfastes. Voilà. Avec
avec un président qui veut être président, qui veut être premier ministre en chef de parti. Et ça, ce n'est pas respectueux des Français ni de la démocratie. Alors, la question qui est sur toutes les lèvres, la question que nous nous posons tous, que voilà, que Xéami dans le chat hurle le matin en se réveillant, hein, que The Macaroni 7 tous les matins hurle en se réveillant, voilà, que Parandos tous les matins dans le chat n'hurle pas tous les matins en réveillant parce que les voisins en peuvent plus et ils ont dit on Parandos maintenant t'arrêtes d'hurler le matin, que le graphiste hurle tous les matins en se réveillant, c'est quelles majorités sont possibles. Voilà, on hurle, mais on n'a pas la réponse. Sous la Ve République, un bloc électoral n'a jamais été aussi loin d'atteindre la majorité absolue. On ne s'est jamais retrouvé dans cette situation. C'est vrai. Difficile dans ces conditions de former un gouvernement majoritaire. Ok, c'est chaud. Soit directement, soit indirectement, grâce à la bienveillance d'un ou plusieurs groupes. Voilà. L'extrême droite est isolée. Hein. Elle a un certain nombre de députés, mais personne ne veut faire alliance avec le RN. Bon, à part Ciotti, mais... Pardon. La droite est trop faible, ils ont très peu de députés, hein, et donc tout se joue au centre et à gauche, écrit Lacroix. Le centre, ce que Lacroix appelle le centre, en fait, c'est la Macronie, mise sur la double bienveillance de LR, acquise, c'est-à-dire que LR, ils veulent pas gouverner, mais c'est pas forcément eux qui vont censurer, hein, et surtout du PS, d'où l'idée d'une personnalité issue de la gauche modérée, hein. Pour l'instant, Olivier Faure reste fidèle à l'union avec LFI, mais il y a une opposition interne au PS, et ça c'est vrai, qui fourbit ses armes avant l'université d'été du parti qui s'ouvre jeudi. Ça c'est une info que vous devez avoir en tête. Jeudi, il y a l'ouverture de l'université d'été du PS, il y a la ligne Olivier Faure qui ne veut pas se désolidariser de LFI, mais il y a des gens en interne qui disent « Ah non, nous on pense qu'on devrait discuter... avec le président Macron. Voilà. J'échange avec vous dans un instant, je voulais juste les dernières infos. Une décision pour quand ? Les Pléiades, mais si j'avais la réponse à cette question, je vous le dirais. Du coup, je reviens à cet article du Parisien avec cette info. Qui l'eût cru ? Le bureau national du PS est tenu mardi à midi, a été suivi avec beaucoup d'intérêt par l'Élysée parce que Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin, opposante interne au premier secrétaire, Olivier Faure, a poussé mardi un gros coup de gueule pour demander une reprise des discussions avec le président de la République. Donc il y a des gens, je ne sais pas combien ils sont moi, Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, qui au PS sont OK pour discuter avec le président Macron d'un éventuel gouvernement. Voilà. Donc c'est une info à suivre dans les prochains jours. En fait, c'est l'un des espoirs d'Emmanuel Macron. Voilà. C'est le nom de ma tante, ça, Guidus. Eh bien, renseigne-toi si ta tante n'est pas au PS, Guidus. Parce que lui, il y a des choses que tu ignores. Non, pas Hélène Geoffroy, Hélène Geoffroy. Voilà. Voilà où on en est. Il y a une interview de François Ruffin, ex-député LFI, dans Libé. Voilà. Et puis, il y a un dossier aussi sur la situation. Lisons Libé. Emmanuel Macron voulait diviser la gauche. Il l'a ressoudée. Voilà. Avant les européennes, je ne sais pas si vous vous souvenez, les grandes manœuvres étaient lancées à gauche pour s'émanciper de l'hégémonie insoumise. Hein. Les socialistes, les communistes, les écologistes voulaient prendre leur distance avant les européennes avec LFI. Jugeant dans leur grande majorité la stratégie de Jean-Luc Mélenchon vouée à l'échec à force d'outrance verbale et de brutalité stratégique. Mais la dissolution a tout bouleversé. Le président qui croyait justement pouvoir profiter des divisions de la gauche, rappelez-vous aux européennes, la gauche était allée en ordre dispersé, eh bien, a vu se recomposer la gauche sous l'égide du nouveau Front Populaire. Et ça, le président Macron ne l'avait absolument pas prédit. Il avait au contraire parié sur une explosion de la gauche qui ne s'est pas faite. Ça a été la force de la gauche de se réunir au sein du NFP. Et sa décision lundi d'exclure l'hypothèse d'un gouvernement NFP, à court terme au moins, a encore renforcé l'alliance du NFP, en tout cas jusque-là. Les insoumis en appellent à la rue maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une manif qui est appelée, je cite, une grande manifestation contre le coup de force et l'autocratie le 7 septembre prochain. Le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, appelle aussi les Français à se mobiliser partout où ils sont. Donc, on va descendre dans la rue, quoi. En revanche, les socialistes et les écologistes, eux, se cantonnent à dénoncer la décision du président et n'appellent pas à manifester. Tout en disant que la seule solution, c'est Lucie Castel. Tous cependant ont condamné le veto présidentiel qualifié de déni de démocratie. Tous ont refusé de poursuivre les discussions proposées par le chef de l'État aux forces politiques. Les socialistes ne seront pas les supplétifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que dit Olivier Faure. La formulation choisie par les socialistes reste pourtant floue, estime Libé. Que ferait-il en cas de nomination d'une personnalité proche idéologiquement de la social-démocratie ? C'est la question que se pose Libé. Hein ? Alors, c'est intéressant parce que c'est peut-être ce qui va se passer. Donc, si vous voyez, dans les prochains jours, l'Élysée, le président Macron, annoncer un Premier ministre qui n'est pas un membre du Nouveau Front Populaire, mais qui est une personnalité socialo-compatible. Voilà. Eh bien, vous comprendrez alors que le président Macron tente un coup, hein, c'est-à-dire de nommer une figure de gauche, hein, même si elle n'est pas NFP, à même de ne pas se faire censurer, notamment par les députés socialistes, voire écologistes, et donc de ne pas être viré du pouvoir tout de suite. Voilà. Et en envoyant le message aux Français, en mode « Ah, vous voyez, j'ai quand même écouté les élections, ok, j'ai vu... » voilà. En disant « Je ne veux pas nommer de personnalité NFP en raison du programme, notamment de l'EFI, etc. » Vous connaissez les arguments, mais bon, ok, j'ai nommé une personnalité de gauche. Voilà, bon. Une figure de gauche qui accepterait, bien sûr, Dr. Jordan, tu as raison. Voilà. C'est peut-être ce qui va se passer. C'est peut-être ce qui va se passer, c'est l'une des hypothèses. Le président espère encore attirer une partie de la social-démocratie, écrit Libération. Le plan, qui nourrit entre autres l'hypothèse d'une désignation de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve, hein, pourrait fracturer le NFP ainsi que le PS, tout en donnant l'impression d'avoir entendu le choix des électeurs qui ont placé la coalition de gauche en tête du scrutin. Tactiquement, dit un socialiste, c'est peut-être malin. Merci Armel Rose. Beaucoup pensent que l'ancien chef du gouvernement de François Hollande n'acceptera pas d'être le jouet de Macron. Est-ce que Bernard Cazeneuve pourrait accepter ? Quelqu'un dans le chat disait « Encore faut-il que la personne accepte ?» Tu avais tellement raison. Tu avais tellement raison. Merci Armel Rose, comment vas-tu ? Merci pour le 32e mois. Voilà. Allez, je vous lis maintenant. Voilà, puis à François Ruffin, vous lirez, très intéressant l'interview qui dit « En tout cas, ça ne va pas du tout, il faut mettre une limite à l'hyper-pouvoir de ce président. Voilà. » Voilà. Même aujourd'hui, il poursuit dans le déni, comme s'il n'avait pas essayé une défaite, comme s'il détenait les manettes. Encore une fois, il croit gagner en minable Machiavel, mais il fait perdre le pays, il fait perdre la démocratie. Voilà. Je vous lis et après je lirai l'édito du Monde sur la situation qui dit que c'est une situation dangereuse. Ce qui se passe en ce moment. Alors à vous. Salut, merci encore Armel. The King Bob qui me dit c'est pas la social-démocratie, c'est des sociaux-libéraux. Utilise les bons termes. Déjà tu vas bien me parler toi. Et puis je ne fais que lire Libération. Donc tu veux, t'es gentil, tu prends ton téléphone, t'appelles Libé, tu les engueules, j'ai pas que ça à foutre. Sans blague. Commencez à bien parler, faut être poli un peu. Pour me faire engueuler à la place de Libé, bordel. T'appelles Libé, j'en ai rien à foutre, moi. Pas possible, ça. Alors, la situation politique. Tu t'es cru, t'as cru que t'étais sur France 3 ou quoi ? C'est bon, tu dis des conneries, je réponds. Franchement, vu comment ça se passe, me dit Tonnerre de BZH, joli pseudo, je me dis que je deviendrai abstentionniste, cela ne sert de moins en moins à rien de voter, surtout comment il écoute ce président. Surtout pas, mon ami. Surtout pas. C'est pire. Surtout pas. Ah, j'avoue que ce genre de comportement ne donne pas envie de voter. Mais on est justement dans un truc qui n'est pas le respect du jeu démocratique. Donc c'est aux citoyens de le dénoncer. Mais au contraire,
Si t'as un minimum de conscience politique et que tu sembles t'intéresser à tout ça, ce qui est manifestement le cas, au contraire, maintiens-toi cette exigence de citoyen que tu as de participer au débat démocratique et en exerçant ton droit de vote, et tout en dénonçant les gens qui ne veulent pas respecter justement ce vote. Hein ? Ne baisse pas les bras, quoi. Voilà, comme le dit Tinglewood, à l'instant, tu rentres dans son jeu si tu ne votes pas ensuite. Merci Quentin pour les 2 abonnements offerts à la commu. Arwen C, ne le faites pas gagner en n'allant plus voter. Bon, vous êtes d'accord sur ce truc, quoi. Le problème, c'est que le vote blanc n'est pas reconnu. Pronoya, tu as raison, le vote blanc devrait être reconnu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Une nouvelle dissolution est-elle possible ? Non, Alza. Constitutionnellement, pas avant 1 an. Enfin, 10 mois maintenant. 10 mois. Il y a un cool-down. Donc, en fait, même si le président Macron démissionnait aujourd'hui, hein, puisque vous savez que du côté de LFI, du côté de Jean-Luc Mélenchon, on souhaiterait destituer le président, bon, ce qui est très, très compliqué à mettre en place, même si le président démissionnait ou était destitué, ça ne changerait rien. Puisque le nouveau président ou la nouvelle présidente, suivez mon regard, ne pourrait pas dissoudre l'Assemblée. Ça ne changerait pas grand-chose. Ouais. Donc on est bien, bien, bien coincé, quoi. Bah, c'est son ult qui est en cooldown, exactement, ouais. Il faut aller... et il s'agit, même en ramassant des orbes, ça ne change rien. Il faut encore 10 mois. Mais il a un peu raison, moyen bof dans le chat. Il y a tant à dire. Ce que je sais, c'est que perso, je ne réussirai plus à faire barrage puisque le camp présidentiel ne respecte pas le résultat. Comment te donner tort ? Vous avez un chef de l'État qui, dans la campagne dernière législative, appelle clairement, enfin son camp, à faire barrage au Rassemblement national, appelle une nouvelle fois les électeurs républicains, notamment les électeurs de gauche, à faire barrage au RN en votant éventuellement pour un candidat macroniste ou de droite s'il est mieux placé que le candidat de gauche pour faire barrage au Rassemblement National. Les élections se passent, le bloc arrivé en gauche, c'est le Nouveau Front Populaire, c'est le groupe, c'est l'Alliance de Gauche, et le président refuse de nommer une première ministre mise en avant par ce groupe. Voilà. En disant notamment, ben on ne peut pas vous nommer parce qu'il y aura une motion de censure qui sera immédiatement votée, notamment par le RN, qui quelque part devient un allié objectif dans la volonté du président Macron de barrer la route du pouvoir à la gauche. C'est un peu... Un petit problème. En quoi Macron ne respecte pas le résultat ? Une majorité relative sert à rien dans la Ve République. Matt, qu'est-ce que tu proposes ? Effectivement, le paysage politique est éclaté. Donc, aucun groupe n'a de majorité absolue. Aucun groupe n'a de majorité relative suffisante. Donc, Matt, tu dis à quoi bon ? Donc, tu dis, bon, bah, on va à la pêche, quoi. Hein ? Et puis, on s'en fout, finalement. Ouais. Non ! Moi, je crois très modestement que la seule solution, c'est, au vu des situations extrêmement complexes avec ce paysage éclaté, certes, aucun groupe n'a la majorité absolue ni relative suffisamment forte pour gouverner comme traditionnellement sous la Ve République. Donc, il y a une révolution à faire, il y a une nouvelle lecture de la Constitution, une nouvelle lecture de la situation politique à inventer. Il faut, à un moment, faire coalition. Il faut que les acteurs de la politique, le président, mais surtout ici les partis, eh bien, se retroussent les manches et inventent une nouvelle façon de faire de la politique et acceptent de faire coalition. Voilà. Ça implique quoi ? Ça implique que le président accepte de nommer un ou une première ministre proposée par le NFP,
puisque ce sont eux qui sont arrivés en tête malgré tout du deuxième tour, responsabilité de Macron de le faire, responsabilité ensuite du NFP de chercher des acteurs, des alliés avec les élus macronistes par exemple ou les élus de droite, que sais-je, voilà, pour se mettre d'accord autour d'un programme de gouvernement, en tout cas sur des réformes à faire. Quand on entend Lucie Castel dans ses dernières déclarations, elle ne dit pas autre chose, elle dit qu'elle a conscience que, je parle bien de Lucie Castel, hein, qu'elle a conscience qu'ils n'ont pas de majorité absolue tout seuls, qu'ils n'ont pas de majorité relative suffisamment forte et qu'il faudra aller prendre dans le programme du NFP, c'est ce que dit Lucie Castel, les mesures, les réformes qui seraient en capacité d'être soutenues par une majorité à l'Assemblée. C'est exactement ce qu'a dit Lucie Castel, noir sur blanc, avant sa rencontre avec le président Macron, pour aller vérifier ce que je vous dis. Voilà. Je parle bien de Lucie Castel. Alors attention, je mets un bémol à ce que je viens de dire. Alors, je suis pas donc totalement naïf. Est-ce que tout le monde au NFP pense comme Lucie Castel? Est-ce que tout le monde à LFI pense comme Lucie Castel? Vous savez quelque part que non. Voilà. Donc, la solution, elle est là, mais elle est pas facile. Vous allez voir que Le Monde, dans son édito qui arrive, parle de la responsabilité du président, mais de la responsabilité aussi des partis politiques. Parce que les partis politiques, même de gauche, ont aussi une responsabilité dans cette situation, parce qu'il n'y a pas de vraie volonté générale de négociation, de coalition, d'alliance, de discussion, pour un moment dire, bon écoutez, la situation politique est telle, on n'a pas été élu par assez de Français pour imposer notre politique, donc on a compris le message, on va retirer des éléments de notre programme, on va discuter avec d'autres partenaires, comme d'autres pays le font à travers le monde. Je ne dis pas que c'est simple, hein. Y a une coalition au pouvoir en Allemagne, ça ne se passe pas très très bien, c'est très très tendu entre libéraux, écologistes et sociaux-démocrates, donc je ne dis pas que c'est simple, mais je crois que c'est la seule solution, voilà. Je ne dis pas que c'est une solution idéale, mais je crois que la seule solution, c'est ça. Le président Macron, pour moi, pour vous donner mon sentiment sur la situation, a la responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre du NFP, et après, le NFP a la responsabilité de se comporter de façon responsable en actant le fait qu'ils n'ont pas de majorité absolue ou relative forte et qu'ils doivent mettre de l'eau dans leur vin, tout simplement, pour trouver des majorités pour voter telle ou telle réforme. Réforme des retraites, par exemple, augmenter les salaires minimaux, etc. etc. Voilà où on en est. C'est mon avis. Ce n'est que mon avis, attention. Je peux totalement me tromper sur la situation. Ce n'est que mon avis, ne l'oubliez pas. Hein. C'est très subjectif. Voilà. Voilà. La France n'a pas la culture du consensus, c'est tout le problème. Non, Pronoya, tu as raison. C'est-à-dire qu'on a été biberonné depuis le début de la 5e par un système politique où il y avait en gros deux grands camps, la gauche et la droite, hein, et qui alternaient au pouvoir. Voilà. Bon, bah là, le paysage politique a changé. Ainsi en ont décidé les Français. Voilà, et les politiques doivent s'adapter à ce nouveau contexte politique. Voilà. Bon. Je vous lis l'édito du Monde, parce qu'à 11h30, j'ai une annonce à vous faire. Et puis après, on parlera aussi des Jeux paralympiques, tout ça. Une situation politique inédite et dangereuse. Ah, pardon, je vous mets peut-être la scène. Voilà ce que Le Monde pense de la situation. Huit semaines après la tenue des législatives, la France se retrouve dans une situation politique aussi inédite que dangereuse. Ni la longue phase de décantation décrétée par Emmanuel Macron après les Jeux Olympiques en vue de désigner un nouveau Premier ministre, ni les consultations politiques qu'il a tardivement engagées en fin de semaine dernière n'ont permis de sortir de la confusion. Jusque-là, on est d'accord. En fin de semaine dernière, blablabla. Et ce, à quelques semaines de la présentation du projet de budget pour 2025. C'est quand même un petit peu embêtant. Le pays est donc menacé de blocage du fait de l'entêtement du chef de l'État à vouloir garder la main le plus longtemps possible. Emmanuel Macron a éconduit la gauche. Le prétexte invoqué par le chef de l'État est que les autres groupes politiques n'auraient pas tardé à censurer le nouveau gouvernement. L'hypothèse est plausible, dit Le Monde. En l'absence d'autres possibilités évidentes, le jeu sain de la démocratie aurait cependant gagné à ce que le chef de l'État laisse l'expérience NFP se dérouler à ses risques et périls, au lieu de vouloir rester coûte que coûte le maître des éléments dans l'espoir de préserver le plus longtemps possible la politique qu'il annonçait et qui se trouve aujourd'hui mise en minorité. Le Monde dit exactement ce que je dis. L'incapacité d'Emmanuel Macron à tirer clairement les conséquences de sa défaite au terme d'une dissolution dont il est seul responsable est la donnée essentielle du blocage actuel. En décidant seul le 9 juin cette consultation hasardeuse, alors que le pays était divisé et sa politique décriée, la pire dissolution comme de l'histoire de la 5e, je ferme la parenthèse, le chef de l'État n'a pas seulement fait du tort à son camp, sorti très affaibli du scrutin, il a aussi mis le pays en danger en accentuant les clivages, l'émiettement, l'incertitude et le risque de blocage, ce qu'on appelle une masterclass. Jamais cependant il ne se comportait comme le principal perdant de cette élection. Est-ce que vous avez entendu le président Macron dire « j'ai perdu, j'ai merdé, j'aurais peut-être pas dû dissoudre » Non, il trouve que c'est, il continue à dire que c'est une très bonne idée. Il est plus que temps de le faire. Voilà, le monde appelle le président Macron à reconnaître ses responsabilités. Responsabilité du président, là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais, le monde ajoute. Oui, Fizz-Wizz-Bizz, il a quand même dit qu'il a perdu. Oui, dans sa dernière intervention, il a reconnu que son camp avait perdu. Mais il n'a pas dit que c'était de sa faute. Vous voyez la nuance ? Mais, le reste relève de la responsabilité des forces politiques présentes au Parlement. Celles qui se disent prêtes à gouverner ont eu tout l'été pour tenter de nouer des alliances, au-delà de leur périmètre, qui s'impose au chef de l'État. Pardon, et tenter de construire une majorité qui s'impose au chef de l'État. Aucune n'a cru bon de le faire, par peur de se compromettre ou manque d'intérêt avant la présidentielle de 2027. Voilà. Bon, bah, moi, je suis très aligné sur l'édito du Monde, c'est-à-dire que le président Macron a une immense responsabilité dans la situation, mais les partis politiques n'ont absolument rien fait de leur côté pour trouver une issue à cette solution. Voilà. Voilà, on en est. Bon, on va suivre, on continue sur ce feuilleton et on verra ce qui se passe dans les prochains jours. Allez, je me lance un expresso, je ne vous mets même pas en pause, ça va être super rapide. Et puis, je parle du procès de Stéphane Plaza. Et après, on va parler des Jeux Paralympiques aussi. Okay, je me lance juste un... Voilà, on est à 30 minutes d'une annonce importante sur ma nouvelle émission sur Twitch. Okay, alors, jingle de pause. Je vais chercher un petit déca. Je voulais discuter entre vous. Et puis, j'arrive pour ça. Ok. Attention, jingle de pause. C'est la pause. Ouais, j'ai un peu investi... dans les moyens, tout ça, voilà. Donc maintenant, il y a le jingle. Merci La Brioche 23. Merci Dr House. J'arrive. C'est la pause. C'est la fin de la pause. Oui, aussi un jingle pour la fin de la pause. Il était bien pourri ce jingle. Alors, c'est assez court les positions. Hein, même pas de pub, hein, même pas de musique, rien. Let's go quoi. Il y a des fous ici. Ouais, la voix a du mal, c'est pas terrible. Bon, un petit café, faire du bien. Le jingle est à revoir. Ouais, j'avoue. Objectif trap, j'avoue. Mais le meilleur, c'est mot, motus, tout. Merci, Clamakin. Pour cette participation. Ok. Ok, bon, parlons des... Ça, c'est ma réunion de... non, c'est j'avais dit midi la réunion. Ils ont mis 11h30, ils n'ont pas changé l'horaire. Donc, je pense qu'ils vont comprendre. Parce que j'ai une réunion à midi aussi. Parlons de Stéphane Plaza. Jugé aujourd'hui pour des violences sur deux ex-compagnes. Le procès de l'animateur vedette de M6 doit se tenir aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Il devra répondre de faits qui auraient été commis entre 2018 et 2022. Vous avez peut-être entendu parler autour de vous de ce procès. Je voulais que vous ayez les infos, quoi. Animateur préféré des Français. Hein, je crois qu'il y a des sondages qui l'ont désigné ainsi ces dernières années. Agent immobilier, businessman, acteur. Il y a Farval qui dit « ça intéresse le public, ça ?» Oui, le public devrait s'intéresser en France un peu plus aux violences faites aux femmes. Point. Point. Zéro débat. Stéphane Plaza, 54 ans, a endossé bien des costumes au cours de sa carrière. Mais ce mercredi, c'est dans un tout autre habit qu'il est attendu devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, celui de prévenu. Il doit y être jugé pour des faits de violence habituelle physique et psychologique sur deux de ses anciennes compagnes entre 2018 et 2022. Le présentateur, lui, conteste les faits. C'est pas parce que je dis que ce sujet est important que je dis que Stéphane Plaza est coupable. En revanche, ça peut envoyer un petit message au grand public, et notamment aux hommes, sur ces sujets, pour montrer qu'on s'y intéresse de plus en plus et que l'époque a changé. L'affaire explose le 21 septembre 2023, après la publication par Mediapart des témoignages de trois ex-compagnes de Stéphane Plaza faisant état de violences verbales et physiques dont elles auraient été les victimes. L'une d'elles, Jade, prénom a été changé, a ensuite porté plainte. La trentenaire l'accuse de lui avoir cassé un doigt, et donc l'annulaire, et luxé un autre, le majeur, et l'index aussi de la main gauche lors d'une dispute en avril 2022 et de lui avoir jeté en 2020 un colis au visage et donné un coup de poing dans l'épaule, l'approchant au sol en 2018. Elle est encore suivie, explique son avocat. Outre les ITT, incapacité totale de travail, il y a eu un retentissement psychologique assez important chez elle, observe son avocat. Jade s'était d'ailleurs confiée sur le sujet au Parisien en octobre 2023. On ne fait pas 5 heures de déposition devant des policiers, on n'expose pas sa vie ainsi pour une affaire de jalousie. Parce que certains disent « Ah, c'est des ex qui sont jalouses, etc. » Voilà ce qu'elle répond. « Moi, dit-elle, j'ai refait ma vie. Voilà. Je n'ai rien à gagner dans cette histoire. Si je parle, c'est pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. » Contre à l'autre plaignante, puisqu'il y a deux femmes qui ont porté plainte contre l'animateur, elle dit avoir, elle, été victime d'injures, de menaces, de vexations, d'humiliations, dit son avocate. Elle évoque aussi des morsures. Cette femme attend que la société et les juges disent que ce qui s'est passé est de l'ordre de l'inadmissible. Pour ces deux femmes, les médecins ont délivré des ITT supérieurs à 8 jours. Il y a Framboise qui dit en coûte, en plus un jugement, ça coûte beaucoup, enfin d'aller en justice. Tu parles des deux femmes, en argent, en mental et en temps. Oui, c'est vrai ce que dit Framboise. Moi-même, dans ma vie, j'aurais pu partir en justice sur des trucs, je parle de travail, hein, sur des trucs ni fait ni à faire, des gens qui n'ont pas été corrects. Et pour m'épargner la charge mentale d'un procès, hein, ça dure des mois, ça dure des années. Le coût par ailleurs, parce qu'effectivement c'est un coût, mais c'est surtout la charge mentale, la fatigue que ça induit, j'ai préféré de ne pas le faire. Donc c'est vrai ce que dit Framboise. C'est vrai ce que dit Framboise. Depuis que ces accusations ont été rendues publiques, plusieurs enquêtes ont été consacrées à Stéphane Plaza. Outre les faits qui lui sont reprochés, il y est décrit comme un homme sanguin qui semble jouir d'un sentiment de toute puissance. Contacté au sujet du futur de l'animateur sur M6 en cas de condamnation, M6, donc l'employeur de Stéphane Plaza, par ailleurs actionnaire à 51% du groupe Stéphane Plaza Immobilier, refuse de commenter une affaire en cours. Sur son compte Instagram en décembre 2023, le présentateur indiquait avoir la conscience tranquille. Je cite Stéphane Plaza. « Je continue et continuerai de défendre la cause des femmes. Je reste droit et debout et me concentre sur mon travail pour continuer à vous aider et à vous apporter du bonheur. Avait-il écrit, il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Sur ce sujet, ô combien sensible et ô combien important, je vous lis et je vous demande un peu de pondération et d'intelligence. Est-ce que tu regrettes de ne pas être allé en justice ? Serais-tu plus apaisé sur cette histoire si tu étais allé ? Clément, non. C'est-à-dire que c'est pour des faits beaucoup moins graves. Je te parle d'affaires de travail, de type prud'homme et tout. Et en fait, non, je ne regrette pas. C'est-à-dire que quand les gens se comportent mal dans le monde du travail avec moi, ce qui n'est pas arrivé très souvent, hein, ce qui est arrivé une fois, en 30 ans, c'est que dalle. Je préfère m'en aller, prendre mes clics et mes claques. Et puis laisser ces gens toxiques entre eux et partir vers de nouvelles aventures plutôt que partir sur 2 à 3 ans de procédures qui vont m'empêcher de mettre de l'énergie, de l'investissement dans d'autres projets, d'autres histoires, dans le travail, voilà, voire bien me briller la tête aussi. Il y a une vraie charge mentale, comme le disait Framboise, sur le fait d'aller en justice. Moi, je ne regrette pas de ne pas y être allé. Voilà. Je ne cherche pas absolument à avoir raison. Les cons, je ne travaille pas avec eux et c'est tout. Du coup, je me barre et je ne demande pas de sous. Hein. C'est ça le truc. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de respect, en fait. De rien, Clément. Ah bah, Jude Abricot dit, et c'est un privilège de fou de pouvoir quitter un taf comme ça, rappelons-le. Ah bah oui, je le sais, je le sais. Alors après, comme je suis un petit peu, je suis malin, c'est-à-dire que moi, on m'a jamais licencié, on m'a jamais viré, on m'a jamais dit de partir, et je n'ai fait que partir. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour plusieurs entreprises depuis 30 ans, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir quitter plusieurs CDI. Mais parce que, bon, à un moment, j'avais fait le tour de l'histoire, le travail m'intéressait moins ou j'avais plus envie de travailler avec des personnes qui avaient pu arriver dans la boîte après mon arrivée, quoi. Donc ça arrive, à un moment les conditions ne sont pas réunies, voilà. Sauf que entre le moment où je me dis bon je vais bouger et le moment où je bouge, bon bah je cherche l'histoire d'après, je cherche l'aventure d'après. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'offrir le luxe de constater le lundi que tu bosses avec des connards et de démissionner le mardi. Bah non, c'est plus compliqué que ça. Et donc du coup, au moment que je constate que ça ne le fait pas et le moment où je pars, bah, je cherche. Je cherche l'histoire d'après pour pouvoir tout simplement payer mon loyer ou payer l'emprunt à la banque, payer les charges de la famille, etc. Voilà. Et ça peut prendre très longtemps. Et c'est ça qui est chiant. C'est-à-dire que ça a l'air simple comme ça, mais à plusieurs reprises, j'ai constaté que je n'avais plus envie de faire un truc, mais j'ai mis parfois, je ne parle pas de moi, mais des années avant de trouver l'histoire d'après. Voilà. C'est-à-dire que je parle de parfois de 3, 4, 5 ans où je fais un truc et en fait je sais que je n'ai pas envie de le faire pour X raisons, mais il faut trouver l'histoire d'après. Donc je ne dis pas que c'est facile. Ouais. Mais je m'en vais quoi. Je finis toujours par m'en aller. Mais revenons plutôt à ce sujet qui me semble beaucoup plus important. Stéphane Plaza fait partie d'une génération qui est aujourd'hui salement remise en question entre lui, PPDA, Depardieu. Les hommes blancs âgés avec de la renommée sont dans une position privilégiée pour pouvoir abuser s'ils le souhaitent, écrit Viaduc. Lisette, il manque la fin de ton message. T'as vu, il n'y a eu que la première ligne de ton message. Il manque la suite, si tu peux compléter. Tu vois, la phrase s'est interrompue. Comme le dit Gergue, il faut savoir partir de son travail, ne pas rester dans un environnement toxique. Oui, alors encore faut-il trouver le taf d'après, quoi. C'est ça qui est compliqué parfois. Noir Wednesday, ils n'en parlent pas dans l'article.
M6, le soutien, c'est bien ça. Alors, le soutien, non, mais ne prends pas de sanctions au nom de la présomption d'innocence qui ne me choque pas en soi, d'ailleurs. On verra après la décision du tribunal correctionnel s'il y a une condamnation ou pas, d'ailleurs. J'aime bien le message. Pardon, on est parti sur un autre sujet, mais je le trouve intéressant aussi, puisqu'on est, on a beaucoup de gens parmi dans ce chat qui travaillent déjà et qui peuvent peut-être être mis en situation de manière comparable. Il y a Royal Akuma qui écrit « J'aurais pu saisir les prud'hommes à mon premier CDI pour un licenciement abusif, mais engager de l'argent pour récupérer la même somme, j'ai préféré partir tranquillement, mais j'oublierai jamais ces connards. Chaque nouvelle expérience pro me rappelle à quel point c'était pas des gens bien. » Ouais, je crois. Ça va, Dadou, ça va. Ça va. Ricky Woolsey dit les prud'hommes, c'est gratuit, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Alors, alors moi, je ne suis jamais le prud'homme, donc je ne sais pas, ou je suppose que les prud'hommes, c'est gratuit, mais l'avocat que tu embauches pour préparer ton dossier de te défendre, il n'est pas gratuit, lui. Et le temps, le temps de la procédure, des mois, des années, la charge mentale que ça va t'imposer, ça a un coût aussi. Moi, je trouve ça très, très courageux, les gens qui vont au prud'homme. Hein. Très courageux. C'est gratuit si tu gagnes. Bah ouais. Ouais, 2 ou 3 ans après, ouais. J'en parle parce que j'ai une amie très proche qui a vécu ça dans notre milieu d'aller au prud'homme. Elle m'a dit à quel point ça avait été très difficile, quoi. Hein, c'est plus de 2 ans. Ouais, elle était en conflit avec une fédération sportive qui était son employeur et qui l'avait licenciée de façon tout à fait éhontée. Et elle avait été extrêmement marquée, quoi. Ok. Les amis, parlons de choses un peu positives quand même, parce qu'il y a quelque chose de formidable. À un moment, il faut se réjouir des choses qui fonctionnent bien. Merci, Katsi, pour le deuxième mois d'abonnement. C'est les Jeux Paralympiques. Voilà. Alors, on jugera dans 12 jours de la réussite ou pas. Il faut juger sur pièce. Voilà. Mais ça sent bon. Ça se présente plutôt bien, ces Jeux Paralympiques. C'est la une de plein de journaux ce matin. Et déjà, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire que le fait même que c'est la une du Figaro, c'est la une des Échos, c'est la une de l'Équipe, c'est la une du Parisien, et j'en oublie, c'est la une de la Croix. Autant de journaux qui consacrent leur une ce matin aux Jeux Paralympiques, c'est une victoire. C'est-à-dire que jamais des Jeux Paralympiques, dans l'histoire des Jeux Paralympiques, n'auront été aussi exposés médiatiquement. C'est la première fois que les épreuves vont à ce point être diffusées à la télé. Hein. Là, il faut dire GG à France Télévisions. Hein. Et c'est à la une de tous les journaux ce matin. Je trouve ça plutôt cool. Deuxième manche des Jeux Paralympiques, vu un peu comme la suite des Jeux Olympiques. L'enthousiasme des Jeux à peine retombé. Les Jeux Paralympiques débutent ce soir. Hein, c'est la cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture qui se tient place de la Concorde. 12 jours de plaisir en plus. Titre. Les Jeux Paralympiques de Paris s'ouvrent ce mercredi soir par une cérémonie sur la place de la Concorde. Jusqu'au 8 septembre, le cœur des Français va recommencer à battre très fort. 17 jours sans le cœur qui bat la chamade, sans ces cris à l'unisson, ces frissons d'émotion, les Jeux commençaient à vraiment nous manquer, écrit Sandrine Lefebvre. Le rideau va donc se lever ce mercredi, avec un spectacle inaugural hors stade, à nouveau. Hein. Donc là, c'est vrai qu'au niveau des Jeux et des Jeux paralympiques, la France, il y a des idées très originales, vous savez, en termes de cérémonie, c'est plutôt cool. Et ça se passera sur la place de la Concorde. L'ambiance jusqu'au 8 septembre promet d'être d'autant plus folle que 2 millions de billets, c'est beau, hein, sur les 2,5 millions mis en vente ont trouvé preneur. hein, avec visiblement une envie de regoûter au plaisir, puisque 48% des personnes ayant acheté un billet pour les Jeux Paralympiques avaient déjà assisté aux Jeux Olympiques, parmi elles 14% d'étrangers qui ont donc décidé de revenir à Paris. Jamais des Jeux Paralympiques d'été ne s'étaient disputés en France. Hein, pour cette grande première, Paris 2024 a mis les petits pas dans les grands avec un concept de match retour. J'ai reçu Tony Estanguet sur cette chaîne Twitch qui parlait du match retour des Jeux Paralympiques. J'avoue que je ne comprenais pas trop le truc. Je n'avais pas trop osé lui dire, mais je ne comprenais pas trop, j'aurais dû. Concept de match retour qui apparaissait plutôt décalé au moment de son dévoilement, dit Le Parisien, il y a quelques années, et qui prend tout son sens maintenant au vu du succès des Jeux Olympiques vécus comme le match aller dont on aurait envie de vivre la suite. Maintenant, je comprends un petit peu. On est parti du fait que les para-athlètes français ne se percevaient pas comme des super-héros, c'est le thème qui avait été choisi par Londres en 2012, mais bien comme des athlètes souhaitant faire des compétitions, réaliser des performances, explique Ludivine Munoz, qui est la responsable d'intégration paralympique à Paris 2024. Les organisateurs ont donc choisi de proposer les mêmes sites de compétition, ils sont moins nombreux, mais c'est les mêmes sites, et notamment les plus beaux, hein, Grand Palais, Invalides, Champ de Mars, Versailles, etc. Donc au niveau de l'organisation, ça a l'air plutôt sympa. D'ailleurs, je vous ai mis plein d'articles sur la question, parce qu'il y a plein d'infos à prendre sur les Jeux Paralympiques. D'abord un mot de la cérémonie qui s'annonce plutôt cool, que je vais regarder ce soir. Paradoxe, je crois que c'est son titre. Cérémonie inclusive et historique. Un spectacle engagé. Là, c'est une vue d'artiste de la place de la Concorde, si je ne dis pas de bêtises, ce soir. Il va se passer quelque chose sur les Champs-Élysées aussi. Un spectacle engagé au cours duquel la question du handicap et de l'inclusion sera posée va lancer les Jeux Olympiques. Thomas Joly, le maître de cérémonie, le même que pour la cérémonie des Jeux, vous savez, d'ouverture, s'est appuyé sur la même équipe artistique que pour la cérémonie des Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est la même équipe. Pas un paradoxe. Attends, je ne l'avais pas saisi. Merci. Attends, il y a Koala Absurde qui dit paradoxe, je l'ai, je ne l'avais pas. GG. La question de l'inclusion a apparu comme une évidence après un échange avec des athlètes paralympiques qui ont fait remarquer que derrière les exploits et la mise en lumière des Jeux, il y avait un paradoxe, la difficulté de se déplacer librement dans la ville du fait de leur handicap. Voilà. Donc ça va être une cérémonie engagée qui dit que oui, il y a un paradoxe à célébrer les para-athlètes dans une ville qui, en termes d'inclusion des personnes en situation de handicap, Paris, on a parlé hier de l'accessibilité du métro parisien, n'est pas au top. Voilà. Cette cérémonie devrait être aussi l'occasion de changer le regard de la société sur la question du handicap. C'est ça qui m'intéresse, moi. Le corps sera ainsi au centre du spectacle. 150 performeurs vont participer au tableau, dont des danseurs en situation de handicap, permettant de donner au spectacle une dimension inclusive et engagée. 4000 athlètes vont défiler sur les Champs-Élysées devant 15 000 spectateurs. C'est pas très loin de la maison, je pourrais y aller. Le problème, c'est que je fais 1m12, donc si j'y vais, je verrai rien, je vais rester devant ma télé. Avant de prendre place autour de la scène de la Concorde. Éteinte le 26 juillet, la magnifique vasque, la fameuse, vous savez, sera allumée aux alentours de 23h30 avant de s'envoler et embraser le ciel parisien de façon magistrale. Alors, je suis content parce que j'ai reçu ces derniers mois plusieurs para-athlètes sur cette chaîne Twitch, voilà. J'ai appris après que l'une des athlètes que j'ai reçues, Nantenin Keïta, avait été nommée porte-drapeau, hein, avec Alexis Anquincan pour les Jeux Paralympiques. Donc elle est à gauche, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce stream, on l'avait reçu, c'était il n'y a pas très 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 longtemps. C'est une femme incroyable, vraiment extrêmement inspirante, très courageuse, très drôle aussi, très sympa, vraiment une très belle personne. Donc Nantenin Keïta, hein, qui est la fille du grand chanteur Keïta. La quadruple médaillée paralympique sur 100 mètres et 400 mètres, 8 ans après son titre à Rio, à Tokyo elle était passée un petit peu à côté, elle conduira avec Alexis Anquincan, qui est un triathlète, l'équipe de France sur la place de la Concorde. Une immense fierté, indescriptible, un immense honneur, dit-elle, rentrée sans médaille de Tokyo, elle était passée un petit peu à côté, elle espère retrouver le podium pour ses derniers Jeux, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui a un grand cœur aussi. Le Parisien parle de son association SNK, qui reprend ses initiales et la première lettre du prénom de son célèbre père Salif Keïta, les amateurs de musique doivent connaître. Au Mali, cette association intervient auprès des enfants afin de faciliter l'accès aux soins, de réaliser autour de la santé aussi des actions de prévention. Il y a aussi un portrait d'Alexis Anquincan, hein, qui est l'autre porte SNK, Attaque des Titans. Ah oui, c'est marrant. Ah, c'est drôle.
Ah oui, j'ai pas fait le rapprochement.
Ah, c'est drôle. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est drôle. Alexis Enquinquant, que moi je connais pas très très bien, mais manifestement qui est très connu des amateurs de sport. Enquinquant est convaincu que ces Jeux paralympiques en France vont contribuer au changement. Je ne peux pas concevoir que les gens ne se prennent pas un gros coup de pied de prothèse dans les fesses, dit-il. En rigolant, les Paralympiques ne sont pas des jeux au rabais. Je suis persuadé que ces jeux sont vraiment un moyen de changer le regard des gens sur le handicap. D'ailleurs, pour moi, ça n'est pas du handicap, dit-il, c'est de la différence. Sa différence, elle est visible. Sa jambe droite a été amputée à la suite d'un grave accident sur un chantier en 2010. Il était maçon carreleur. L'ancien champion de France de boxe full contact chez les Valides s'est ensuite tourné vers le triathlon jusqu'à remporter les Jeux de Tokyo en 2021. Et devenir ces dernières années l'image du parasport. Invaincu depuis 2019, il sera l'ultra favori de sa course. Oui, tout à fait, The Girl from Back Then, tu as raison. Sophie Fille, aujourd'hui la nif de mon amoureuse qui s'appelle aussi Samuel. Bon anniversaire à Samuel. Mais non, Sugar Broubou, faut pas supprimer le message de Collabsurde. T'as pas la ref. Et Collabsurde qui a écrit, j'espère qu'on reverra le cul au ping-pong. Le Q, c'est le comité, je sais pas quoi, ultra Lebrun, je sais pas quoi, c'est le comité de soutien des frères Lebrun au ping-pong. Ça s'appelle le Q, C-U-L. T'avais pas la ref, mon chouchou. Eh, on a frôlé le ban, hein. Collectif ultra Lebrun. Ouais, ouais, le collectif, c'est ça. Mais non, mais ils savaient pas. C'est trop mignon. C'est le Q. On veut voir des culs. Non, non, on veut voir le Q. Parce que c'est le collectif ultra Lebrun. Mais tu peux pas dire, on veut voir des culs. Ça ne marche pas. Non, là, tu vas être ban. Bah, on peut pas avoir la rêve de tout. Hein. On peut pas avoir la rêve de tout. Hein. Alors, c'est intéressant parce que moi qui dis depuis des années que c'est un scandale que le métro parisien ne soit pas accessible aux personnes en situation de handicap, j'ai HV Mine qui écrit dans le chat. Pour avoir travaillé la RATP, le problème d'accessibilité est créé par la loi. Pour que les personnes handicapées puissent accéder au métro, il faut que l'ensemble de la ligne soit accessible aux handicapés, sauf que certaines stations, ça je l'ai déjà entendu, ne peuvent pas avoir d'ascenseur car trop proche de la Seine ou autre structure bloquant l'extension des stations. Ce qui est encore plus stupide, c'est qu'en cas d'incendie, les ascenseurs sont mis hors service. Ah ouais. Il n'y a pas moyen de trouver des solutions quand même. Ah, c'est Valérie Pécresse qui vient d'annoncer que elle comptait lancer une initiative pour qu'on trouve l'argent pour que le métro parisien devienne accessible. Moi, j'y crois. Hein, quand on veut, on peut, non ? Ouais. C'est la une du Figaro, les Jeux paralympiques pour prolonger la ferveur. Et, alors, j'accélère, mais je voudrais absolument vous lire cet article, qui est un espèce de mode d'emploi de ces Jeux paralympiques, hein, parce qu'on n'est pas tous grands connaisseurs de parasport, c'est mon cas. Et je trouve que bah, cet article est très bien fait. Voilà, je vais au moins vous lire celui-là, puis après je vais aller poster la petite vidéo Twitter, ma petite vidéo sur les réseaux, pour l'annonce dont, que je vous ai promise. Et après on en parle rapidement. Tout pour comprendre les Paralympiques, vocabulaire, classification, discipline, équipe de France, l'essentiel pour suivre les épreuves. Très bon article, je salue le travail d'Adrien Bèze. BEZ dans cet article. Depuis les Jeux de Séoul en 88, les Paralympiques sont organisés dans la même ville que les Jeux Olympiques. Avant, c'était pas le cas. Reste que les paras ont leur discipline propre, un vocabulaire spécifique et un système particulier de classification des athlètes. Donc, c'est pour ça que quand on regarde les épreuves, on comprend pas tout. Mais je pense que sur France Télévisions, par exemple, ils vont faire le travail pour bien nous expliquer. Déjà, le vocabulaire. Hein ? Les disciplines sportives que pratiquent ces personnes en situation de handicap sont des parasports. On parle des parasports. Aux Jeux paralympiques, il y a 22 parasports. Attention à bien les nommer. On ne parle pas de para-volleyball, par exemple, hein, mais de volleyball assis. Il n'y a pas de para-tennis, mais du tennis fauteuil. Hein. Moi, à un moment, j'ai parlé de basket. Alexandra, qui est une habituée du chat, m'a dit « Non, Samuel, on dit basket-fauteuil. » D'ailleurs, je vais en voir samedi. Il ne faut pas dire rugby assis, il faut dire rugby-fauteuil. Okay. Donc, attention aux mots. Les mots. Une personne pratiquant un para-sport est un para-athlète. Hein, un para-athlète participant aux Jeux paralympiques est un paralympien. Toujours côté vocabulaire, il faut privilégier l'expression « personne en situation de handicap ». Bon, ça, c'est vrai, c'est pas vrai.
Bon, moi, pour fréquenter beaucoup de personnes en situation de handicap, notamment en raison d'un engagement associatif, souvent les personnes en situation de handicap, alors écoute bien Schubsegen là, sont les premières à te dire on s'en bat les couilles. Handicapé, personne en situation de handicap, je m'en fous. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ton regard sur le handicap. Voilà. Donc, voilà. Moi, je préfère dire personne en situation de handicap. Voilà. Y a un petit côté poétiquement correct là-dedans. En vrai, si vous êtes en situation de handicap ou connaissez des personnes en situation de handicap, vous savez qu'eux-mêmes font... Ah, 11h25. C'est pas forcément très important. Voilà. Voilà. Captain, oui, je suis handicapé et je confirme. Esa, j'ai un handicap et je m'en fous aussi. Voilà. Bon. Donc, bon, mais moi, personnellement, je dis souvent personne en situation de handicap quand même. Mais en vrai, handicapé, c'est OK. En revanche, un peu plus loin, de manière générale, et là, je suis d'accord, il faut toujours parler de personne. Personne malvoyante. Ça, oui. Personne aveugle. Personne de petite taille. Et pas... Ça semble évident, mais encore faut-il le rappeler, personne mal marchante. Ça on peut dire, pardon. Mais on ne dit pas aveugle. On ne dit pas un aveugle. On dit une personne aveugle. Hein. On ne dit pas un nain. On dit une personne de petite taille. Voilà. On ne dit pas un boiteux, etc. Voilà. Parce qu'en fait, pourquoi ? Bah parce que ça, c'est réduire la personne à son handicap. Tout simplement. Il y a Phantom Trax qui dit pourquoi. Par contre, on dit un con, oui. Parce que c'est réduire la personne à son handicap. C'est évident, non? Ah, merci. Faster Blast, qui, lui, comprend vite. D'où le pseudo. Hein. Donc ça, c'est important. Mais c'est marrant, parce que pour moi, c'était évident, mais... non, on ne dit pas une personne naine, on dit une personne de petite taille, plutôt. Donc, certains posent la question, quand même. Ah, bah, voilà. Donc, personne. Comme le dirait ma belle-sœur, ce sont avant tout des personnes, il ne faut pas les réduire à leur handicap. Ça, c'est très important, ça. On ne dit pas un mal comprenant. Non, on dit un con, Camille. On dit... Voilà. Voilà. Bon, ça, c'est OK. Mais manifestement, certains l'ont appris. Alors, il y a le système de classification des sports aussi qui est assez compliqué. T6, SB4, C5, le système de classification décrypté. Les amoureux du 100 mètres seront ravis. La distance reine des Jeux, le 100 mètres, est bien présente aux Jeux paralympiques et offrira non pas deux finales hommes-femmes, mais 30 finales. Hein, parce qu'en fait, il y a plein de catégories. En natation, les fans du 50 mètres nage libre se régaleront devant 14 finales. Pourquoi autant de catégories ? Pourquoi autant de courses de podium ? Parce que tous les para-athlètes n'évoluent pas dans les mêmes catégories, bien sûr. Chacune catégorie tient compte des caractéristiques du handicap, selon la même logique, des catégories d'âge ou de poids en judo, par exemple. C'est tout l'enjeu du système de classification, placer chaque para-athlète dans la bonne catégorie pour éviter que celui ou celle dont le handicap est moins important triomphe systématiquement et garantir l'équité des compétitions. Prenons l'exemple du 200 mètres masculin, il y a quatre catégories. Le T35, T c'est le trax, c'est le track, c'est la course. Hein. T35, T37, T51-64. Ensuite, il y a deux chiffres. Le premier, c'est la nature du handicap. Là, ici, c'est le 3. Le deuxième, c'est le degré du handicap. Donc, la lettre, c'est la discipline. Le premier chiffre, c'est la nature du handicap. Et le deuxième chiffre, c'est la gravité du handicap. Les épreuves du 200 mètres T35 et 200 mètres T37, c'est les para-athlètes, par exemple, qui sont atteints de paralysie cérébrale. Voilà. Mais la paralysie est plus importante chez les T35 que chez les T37. Plus le deuxième chiffre est petit, plus le handicap est important. OK ? La première lettre, la discipline. La deuxième lettre, le handicap. La troisième lettre, le degré de handicap. Et plus le chiffre il est petit, plus le handicap est important. OK ? Moi, je ne savais pas ça. J'ai appris ça dans le Figaro ce matin. Pour la natation, comme pour les autres disciplines, ce qui prime, c'est l'impact du handicap sur la performance et pas sa nature. Une catégorie peut donc regrouper des handicaps très différents. Dans la S6, par exemple, on a vu un Britannique qui avait une infirmité motrice cérébrale sur le côté droit du corps. On avait une Néerlandaise paraplégique, mais on avait aussi une Britannique qui était une athlète de petite taille. Voilà. Pour obtenir sa classification, un sportif doit passer par plusieurs étapes, dont un examen avec un évaluateur médical. Bon, là, ça ouvre plein de polémiques, parce qu'il y a plein de, il y a des athlètes qui disent, bah, moi, je suis dans telle catégorie, alors je ne devrais pas être dans celle-là, je me fais laver. Ouais, ouais, je vais aller faire la petite annonce. Je vais aller, je me fais laver. Voilà. Donc, il y a des débats, il y a des polémiques. Si vous connaissez un peu l'histoire, il y a le jeune homme Théo Curin. Vous savez, l'ancien para-athlète qui est animateur maintenant sur France Télévisions et qui anime à la rentrée Slam, qui devient mon confrère, juste avant Question pour un champion, un Cyril Féro qui laisse sa place, qui part sur France 2. Et il laisse sa place à Théo Curin. Donc, c'est la première fois, je crois, qu'une personne en situation de handicap comme ça se voit confier une émission aussi importante, je crois, hein, en France. Eh bien, Théo Curin, moi, je me rappelle d'une interview de lui, que j'avais faite d'ailleurs, je l'avais reçue, où il disait qu'il avait abandonné la compétition en natation parce que justement, il n'était pas dans la bonne catégorie et qu'il était avec des gens qui étaient beaucoup plus forts que lui en raison d'un handicap moins fort, quoi. Voilà. Donc, voilà. Bon, alors, j'avais d'autres trucs à vous lire sur les Jeux Paralympiques et puis un petit peu aussi sur Oasis, mais Oasis, on en a déjà parlé hier, et sur les Jeux Paralympiques, je vous ai dit l'essentiel. Il est 11h30. Waouh, ce timing. Suspense. Il est 11h30. Bon, une fois que je suis à l'heure. J'avais dit à 11h30, petite annonce, à 11h30 précisément, je vous révèle ma nouvelle émission que je lance à la rentrée sur Twitch, sur laquelle on a bossé, parce que c'est un travail collectif avec plein de personnes, depuis un an, voilà, pour affiner le concept, pour, voilà, au début, je voyais à peu près l'idée, mais donc on a bossé sur le concept, sur la forme et tout, et on arrivait à un truc dont je suis super fier, je trouve formidable, les modérateurs, les modos sont au courant, parce qu'ils ont participé au pilote, à la première émission qu'on a enregistrée, on a fait ça très sérieusement en juin dernier, pour voir si ça fonctionnait. Et on est assez content du résultat. Voilà, ce qui nous a permis aussi de corriger les premiers trucs et tout. Et donc, l'émission, elle arrive le 4 septembre. Okay, donc, je vous abandonne là. Bien, là. Je vais dans la petite pièce d'à côté où le post, le tweet avec la vidéo est prêt. Je poste. Voilà. Et je reviens, on regarde la vidéo ensemble. C'est une petite vidéo, une petite annonce. Et puis, je réponds à vos questions sur le sujet. Mais je suis très, très fier de ça. OK ? Vous bougez pas ? J'arrive! Oui, j'ai une pièce pour tweeter. Non, c'est parce que mon vieux Mac est en Wi-Fi et le Wi-Fi ne capte pas ici. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est posté. Je crois que ça a marché. Mon vieux Mac à 250 ans a posté. On va aller voir ça. MVP. C'est le nom de l'émission. C'est bon, ça a marché. OK, let's go. On va sur Twitter. Voilà. Voilà, et donc ça c'est le post il y a deux heures ce matin, la matinée Étienne, on lit les journaux ensemble
À 11h30, petite annonce, j'actualise. Bim. Voilà, très heureux de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle émission sur ma chaîne Twitch, dit le poste, et tous les réseaux. Elle s'appelle cette émission MVP, ma vie pro. Pro, ok, on va parler de travail, de boulot, de, je vais vous préciser ça, d'orientation, de changement de carrière, d'épanouissement. Est-ce qu'on peut trouver l'épanouissement au travail ou pas? Est-ce qu'on peut trouver une forme d'équilibre ou pas au travail? Dans quelles conditions? Voilà. On va parler aux plus jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. On va parler à ceux qui travaillent déjà, mais qui ont peut-être envie de changer, etc. Rendez-vous le mercredi 4 septembre à 12h pour la première. J'ai hâte. On regarde la vidéo. Hop, je vous la mets. Bon, je l'ai mise en format vertical parce que comme ça allait sur tous les réseaux. Vous êtes prêts? Ah, ça a été du boulot. Let's go. Ça y est, je peux enfin vous en parler de cette nouvelle émission qui arrive le 4 septembre prochain sur ma chaîne Twitch MVP, ma vie pro. C'est le nom de ce nouveau rendez-vous et du média à retrouver sur tous les réseaux sociaux. De quoi ça parle? Eh bien du monde du travail, sujet dont on parle d'ailleurs souvent sur ma chaîne Twitch. C'est quoi le but? Eh bien de découvrir des métiers, de discuter de l'avenir, d'avoir des témoignages de professionnels, passionnés. On va vous aider à trouver votre voie, à vous épanouir dans le monde pro et bien sûr, on passera aussi un bon moment. Rendez-vous donc le 4 septembre prochain. Et d'ici là, j'ai encore une petite surprise.
Eh bien, regardez le décor de cette émission MVP, il est déjà prêt. Je vous le montre en avant-première. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve super beau. Cadeau. Bon, maintenant, je vous laisse parce que j'ai une émission à préparer et je vous dis à très bientôt.
Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ça va le plateau, hein ? Ça va, hein? Voilà les amis. Bon, alors en gros, cette émission, on a commencé à m'en parler, parce que c'est une idée qu'on m'a proposée, il y a plus d'un an. Il y a un an, voilà. Et on a mis un an à la penser, à l'imaginer, de cette idée de départ, une émission sur la vie professionnelle, sur le monde de l'emploi, du travail, de l'orientation, de la réorientation aussi. Et on a fait des réunions et de la réflexion et on a construit une émission et on a fait des réunions, hein, c'est vraiment un travail au long cours et on est arrivé à un résultat que vraiment je trouve réussi, que je trouve très sympa, voilà. Et on s'est dit on y va du coup et voilà, et on a fait un pilote que les modos ont vu, puisque les modos et uniquement les modos étaient dans le chat de la première, du pilote qu'on a fait en juin pour tester un peu nos idées, voilà. Et les modos nous ont dit ce qu'ils en pensaient, voilà. Et ils nous ont fait un retour avec des remarques extrêmement pertinentes sur le fond, sur la forme, voilà, sur les trucs qu'on pouvait améliorer. Et nous, ça nous a permis aussi de bosser là-dessus. Alors, globalement, le projet était super bien né. On l'a un petit peu et à la marge, on a entendu les remarques sur le fond et la forme qui étaient très 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 intéressantes. Voilà, Pépin Camille qui était là, je confirme. Trop bien. Je réponds à vos questions maintenant. Voilà. On peut peut-être mettre le... Hop. Tu, on peut mettre le joli décor. Là. Il est pas mal le décor. Allez, là. Ha ha. Voilà, je réponds à vos questions. Donc, vous l'avez compris, c'est en gros une émission sur le monde du travail, le monde de l'emploi. Partant d'un constat. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'émissions aujourd'hui en France, y compris à la télé, sur ce sujet qui pourtant touche un peu tout le monde, voilà. Ou ceux qui sont au boulot, ou ceux qui aimeraient bien en avoir un, ou ceux qui en auront un plus tard pour les plus jeunes. Voilà. Un. Deux, on est sur une matière qui est souvent un peu anxiogène, voilà. Et sur laquelle les gens se posent plein de questions. Par exemple, qu'est-ce que je ferai plus tard, voilà. Je pense que la question de l'orientation en France, elle n'est pas très très bien gérée. Et on n'explique pas trop aux jeunes qu'est-ce qu'il peut y avoir comme multitude d'emplois différents dans une multitude de secteurs. Voilà. Et puis, y compris pour des gens qui, eux, travaillent déjà et ne sont pas forcément très heureux / épanouis au travail et qui se posent des questions en mode « Mais comment, moi aussi, je pourrais avoir un boulot cool ou travailler au moins dans une ambiance à peu près sympa avec des gens cool, quoi. » Donc, c'est une émission qui va aborder, en fait... Salut Défécator. Ce sera bimensuel, je vais vous en parler.
Defecator pose la question de la fréquence. Et en fait, c'est une émission qui répondra à toutes ces questions. En fait, donc on va aborder toutes ces thématiques. Comment ? Bah avec pas mal de moyens, en vrai. Ce sera peut-être un podcast, Déborah Lane, on est en train d'y penser, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette émission ? Donc, il y aura une thématique à chaque fois. Voilà. Par exemple, je peux vous leak le thème de la première émission, qui est donc la semaine prochaine, le 4 septembre, à midi, sur ma chaîne Twitch. Ce sera le bonheur au travail. Hein, voilà. Est-ce qu'on peut trouver le bonheur au travail ? Est-ce qu'on doit trouver le bonheur au travail d'ailleurs ? Est-ce que c'est une obligation ? Et l'émission, vous verrez, elle dira bah, peut-être pas. Hein. Il y a des gens pour qui un travail, c'est purement alimentaire. On n'est pas obligé d'avoir un métier passion. Et on peut être tout à fait, c'est un truc que je vous dis souvent sur ma chaîne, on peut être tout à fait très heureux et très équilibré dans sa vie sans avoir un métier passion où on s'investit comme des fous. Vous voyez ? Donc l'équilibre, le bonheur, ça peut prendre plein de formes. Donc en tout cas, on va explorer cette notion de bonheur au travail. Voilà. Et avec qui ? Avec des chroniqueurs. Il y aura à chaque émission trois chroniqueurs. Un que vous verrez à chaque fois et deux qui tourneront. Voilà. Donc trois chroniqueurs à chaque fois et trois invités à chaque fois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. La reconversion, bien sûr qu'on en parlera. Voilà. Donc du monde, trois chroniqueurs. Donc chacun préparera un éclairage sur la thématique de l'émission. Donc ça veut dire qu'à chaque émission, on aura une nouvelle thématique, donc on ne se répétera pas. C'est deux invités. C'est pas trois, c'est deux. Voilà, parce qu'il y a des gens dans le chat qui connaissent encore mieux l'émission que moi. C'est deux invités. Voilà, j'avais un doute. Deux invités pour répondre aussi à ces thématiques. Souvent des gens directement concernés ou vraiment passionnés par le travail. Le handicap au travail, bien sûr. Bien sûr. Et puis le chat, évidemment. Voilà. Oui, parce qu'il y a 5 chaises. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, oui, c'est ça. 1, 2, 3. Oui, bah, ça, oui bah, c'est parce qu'en fait, les deux invités ne seront pas forcément ensemble. 2 ou 3, parce qu'il y a l'invité d'après. Il y a l'invité... Bon, bref, peu importe. Vous verrez, parce qu'il y a des surprises aussi. Avec un grand invité. Bref, et le chat, bien sûr. Puisque moi, le constat que je fais, c'est que cette thématique du travail, de l'emploi, de la formation, de l'orientation, de la réorientation, vous m'en parlez tous les jours. Hein, on se parle tous les jours au quotidien de notre situation personnelle, qu'on soit lycéen, qu'on soit étudiant, ou qu'on soit en recherche d'emploi, ou qu'on soit travailleur. Voilà. Et on en parle tous les jours. Et ben, à un moment, je me suis dit, on va faire une émission là-dessus. Voilà. Pour échanger tous ensemble, puisqu'on est sur Twitch, hein, on n'est pas à la télé, donc le chat sera très très présent. Comptez sur moi pour vous lire énormément. Voilà. Et est-ce que les chroniqueurs sont déjà connus ou on peut postuler ? On peut postuler, Adrien, bien sûr. Hein ? De toute façon, il y aura un chroniqueur fixe et deux chroniqueurs qui vont tourner. Voilà. Bon, voilà, les grandes lignes. Et pour répondre à la question de tout à l'heure qui m'a été posée dans le chat de Defecator, ce sera une émission bimensuelle. Donc, au moins deux fois par mois. Je dis au moins parce que parfois, ce sera plus. En septembre, je crois qu'on va faire trois émissions, par exemple. Mais en gros, au moins une émission bimensuelle. Le rythme, normalement, c'est une fois tous les 15 jours. Tous les mercredis. En direct, on est sur Twitch, Tom. À midi, à 12h. Voilà. On part sur une émission de 2h30, 3h. Voilà. Et juste avant, une revue de presse. Tadam ! Ah oui, je ne vous ai pas dit. Parce que, donc ça, c'est le studio de l'émission que vous voyez ici, qui est plutôt joli, on peut dire. Voilà. On est d'accord. Et juste avant, pas loin de ce studio, pas très loin, je serai en revue de presse, la matinée Étienne. On va dire 9h midi, 9h, 11h50. Et à 11h50, eh bien, je prends un escalier, je m'installe dans le studio et j'enchaîne. Voilà. Comme ça, on parlera de l'actualité à l'émission. Je vous garderai avec moi. Voilà. C'est pas mal, non ? Je réponds à vos questions maintenant. Et le tout en direct. Ouais, ça me fera 6 heures de live. Oui, le plateau est à Webedia, Lloyd. Exactement. Là, je retrouve les équipes que j'ai plaisir à retrouver quand je vais à Popcorn, quand je vais à Zen. Voilà, les gens qui ont travaillé avec moi autour de ce très beau projet, ce sont les gens qui travaillent sur ces émissions. Voilà. Des gens avec qui je travaille assez souvent depuis quelques mois et avec qui j'ai beaucoup plaisir à travailler. Voilà. Tu auras quel rôle dans cette émission ? Je serai l'animateur, Reaper. Voilà. Voilà, puis je participe aux réunions. J'en ai une à midi d'ailleurs, là. avec l'équipe pour définir les thèmes, pour choisir les invités, pour choisir les chroniqueurs, pour etc. Voilà, mais ça, l'équipe est super. C'est super agréable de travailler avec eux. Est-ce que c'est une émission sponsor? Ben, je pense, il y aura des sponsors. Il y aura des sponsors. Parce que vous imaginez bien, quand vous voyez le plateau et quand on voit les moyens qu'on va mettre dans cette émission avec les chroniqueurs, qui sont des travailleurs, hein et les invités, et toute l'équipe technique qui est très importante derrière, là, effectivement, il y aura des sponsors sur chaque émission, comme vous pouvez l'avoir sur Popcorn, par exemple, hein, pour payer tout ça, évidemment. Il y aura combien d'émissions? Ben, il y en aura au moins une tous les 15 jours. Comment sera impliqué le chat? Comme d'habitude, Red Lloyd, dans une émission sur Twitch. Vous savez que, pour moi, je suis sur Twitch parce qu'il y a le chat. Donc, une émission Twitch sans chat, ça n'a aucun intérêt. Donc, je serai sur le chat non-stop, quoi, bien sûr. Quelle durée pour les émissions? On est sur du 2h30, quoi. On vise un 2h30 qui peut aller jusqu'à 3h, quoi. Pas facile sur un talk d'intégrer le chat, bah je le ferai, Lucas, tu sais, j'ai l'habitude. Alors, je n'intégrerai pas le chat comme je le fais quand je fais du gaming ou de la revue de presse, où il y a les journaux et vous, donc c'est beaucoup plus facile, donc je suis beaucoup dans l'échange avec vous. Dès que j'ai des invités sur ma chaîne Twitch, vous savez que je suis un peu moins sur le chat, parce que tu ne peux pas poser une question à un invité ou à un chroniqueur et l'écouter, tout en réagissant avec le chat. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, c'est impoli, et puis surtout, ça ne marche pas. Donc tu un peu moins dans le chat quand tu reçois des invités, mais ça c'est dès que tu reçois des invités sur Twitch, hein, pas que pour moi, mais le chat sera très intégré à cette émission, bien sûr. On est sur une émission pour Twitch, hein, qui a été pensée pour Twitch, mais qu'on retrouvera sur d'autres réseaux, puisque il y aura des déclinaisons de cette émission, ça je ne vous l'ai pas dit, avec des pastilles, hein, des chroniques qui seront inédites, voilà, qui seront issues de ce média global, en fait. Parce que là, en fait, c'est une émission sur Twitch, mais en fait, MVP, c'est un média global. Et vous aurez des pastilles, des chroniques sur ce monde du travail, de l'emploi, de la formation, de l'orientation, etc. Sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, même sur Facebook, je crois. Voilà. Même si moi, j'ai plus de compte Facebook. Voilà. Et je vous accompagnerai le midi. Parce que le constat aussi, c'est qu'on a, quand on a réfléchi à l'horaire, bah, on a aussi fait le constat que le midi... On s'est posé la question, quand est-ce qu'on fait cette émission? Bon, on a choisi le mercredi. Et à quelle heure? Bon, on s'est dit, est-ce qu'on fait ça le soir? On s'est dit, c'est peut-être une émission du midi, ça. Hein, sur la pause du midi, hein, la pause déj du midi. On s'est dit, c'est une bonne idée. Ça permet aux gens, aussi aux gens qui travaillent éventuellement, de se mettre en pause déj devant. Est-ce que ça parlera aussi d'entrepreneuriat, bien sûr? Voilà, donc on s'est dit que c'était un bon horaire. Voilà. Non, il n'y aura pas un chef cuistot pour faire à manger. Non, on ne va pas manger en même temps. Voilà, je pense que voilà, Salazar dit mieux que le soir. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne idée. Ben, sachant que vous l'aurez en replay sur Twitch et sur YouTube. Voilà. Voilà. Et même au niveau du ton, je pense que c'est plus sympa de parler de cette thématique le midi que le soir, quoi. Peut-être le soir, on a envie de se détendre un peu. Là, on sera sur une thématique sérieuse. Le travail, l'emploi, c'est une thématique sérieuse. Mais par contre, ça, c'est important. Je ne vous l'ai pas dit encore. Au niveau du ton, ce sera détendu, quoi. Très détendu. C'est-à-dire qu'on est clairement sur une émission Twitch. Le ton que j'ai en vue de presse ou sur mes émissions, mes rendez-vous gaming, ce sera le même, quoi. Hein, on ne fait pas de la télé. Hein. Là, pour ceux qui se posent la question, là, on voit un très beau studio. On voit waouh, qu'est-ce que c'est que cette émission? Hein, j'ai vu un message tout à l'heure en disant ah ouais, mais moi, j'aime pas quand la télé vient sur Twitch. Attention, hein. Là, c'est zéro télé. Hein. Moi, je viens de la télé. Ça, c'est pas une émission pour la télé. Hein. C'est une émission qui n'a pas été pensée pour la télé. C'est une émission qui n'aura pas la forme de la télé. C'est une émission qui sera libre dans le ton, libre dans l'ambiance, comme tout ce qu'on fait sur Twitch et comme ce que je fais sur Twitch, avec l'interactivité, l'interaction avec le chat. Et en aucun cas, ça ressemble à une émission de télé, quoi. Hein, vous connaissez mon discours là-dessus. Moi, comme tout le monde, je me suis posé des questions. Est-ce que des émissions aussi ambitieuses que Popcorn, que Zen ou d'autres productions de ce type, est-ce que c'est encore du stream ou est-ce que c'est de la télé? Moi, je me suis posé la question en arrivant sur Twitch et j'en suis arrivé à la conclusion que bah, c'était du stream, hein, parce que le ton... Était un ton Twitch, parce que la liberté de ton était une liberté qu'on trouve que sur Twitch, parce que l'incarnation, c'est une incarnation de stream. Vous allez voir des chroniqueurs et des invités que vous verrez que sur Twitch, et qui a l'interactivité que la télé ne propose pas, quoi. J'ai loupé le début de l'annonce, pardon. Ce sera avec 4 nouvelles personnes à chaque fois, où il y aura des invités persistants? Ah ben, à chaque fois, alors il y aura un chroniqueur fixe. Voilà. Et il y aura 2 chroniqueurs tournants et les invités changeront à chaque fois.
Ouais.
Alors, on songe à faire aussi un format podcast, ouais. Cravenius dit la question peut se poser quand l'émission ne tient plus compte du chat. Exactement. Attendez, est-ce que je... Oui, je pense que je peux vous le dire, oui. Attendez, bougez pas. Je surveille le timing parce que j'ai une réunion à midi, justement avec l'équipe de Time Out. Time Out, Ah non, on parle de MVP d'ailleurs. Non, Time Out, c'était hier. Parce que y a Time Out qui revient aussi. Non, c'est hier soir que j'ai eu une réunion avec l'équipe de Time Out. Là, c'est l'équipe de MVP. Attends, est-ce que je pense que je peux vous le dire. Allez, je vous donne les infos, Voilà. Exactement. Ok, alors je vous révèle, je ne sais pas si j'ai le droit.
Dans cette vidéo, on va suivre durant 24 heures...
Je vous révèle le nom du chroniqueur permanent. Celui qui sera là à chaque fois. Voilà, c'est Ludovic B. Ludovic B, c'est un créateur de contenu, c'est un YouTuber, en fait, qui est justement spécialisé sur les métiers. Voilà, il a une chaîne sur YouTube, notamment, où il fait découvrir des métiers en vidéo. Voilà, et c'est super bien fait, donc il est super pertinent. Voilà, on n'est pas allé chercher n'importe qui. Voilà, il a plein de... Une journée avec les pompiers, une journée avec un artificier, une journée avec des mécaniciens à avion, une journée dans un refuge avec un soigneur animalier, etc. Donc c'est quelqu'un, voilà. Voilà, bon, bah, vous le connaissez. Voilà. Bon, bah, Ludovic B, il sera là à chaque fois, Ludovic. La classe ou pas ? Voilà. Non, l'émission, on l'a vraiment pensé sur cette thématique, quoi. Ces vidéos sont incroyables, me dit Kerry Pooks. Excellent, il fait du très bon travail, me dit Gluon Dunet. Trop bien, me dit Matray. Ok, voilà. Donc Ludovic, il sera là à chaque fois. Il sera là avec moi. Et on a Défécateur Officiel, dont je connais la justesse du jugement, me dit excellent ses contenus sur YouTube. Bon, ça me fait plaisir. Bon, je sais qu'il fait un super boulot. Mais je suis super content de la voir. Il sera là à chaque fois avec nous, quoi. Et il fera une chronique sur la thématique. Sur la thématique de l'émission. Et il sera là aussi. Il participera aux interviews. Il ira le chat avec moi et tout. Voilà. C'est pas mal. Voilà, donc je suis très heureux de ça. Pourquoi vous parlez du tatou ? J'ai pas la ref. Voilà. Pour Ludovic. Ouais, et puis en plus, il est très sympa. C'est Ludo du tatou ? J'ai pas la ref. Il était dans un groupe de youtubeurs appelé le tatou ? Ah, ok. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des ponts avec le média Élan lancé par Hugo Décrypte ? Alors non, en fait, nous, on a appris quand on phosphorait sur ce projet d'émission l'an dernier, on a appris que Hugo, que j'aime beaucoup, était en train de réfléchir aussi à une émission sur un média sur le monde du travail. Alors je vous avoue, je ne suis pas allé voir. Mais et je crois qu'il l'a lancé. Mais non, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de lion. Ouais. Il faudrait peut-être que j'aille voir d'ailleurs. Je pense qu'il a vraiment le bon mood pour Twitch. Le chat va l'apprécier. Kiri Books à propos de Ludo. J'ai aucun doute là-dessus. Ouais. Ouais. Mais vous verrez, même les chroniqueurs qui vont tourner. Donc on a déjà identifié des gens. En fait, pourquoi les deux autres chroniqueurs vont tourner ? Parce qu'en fait, on va les choisir en fonction de la thématique de l'émission. Puisque l'idée, c'est vraiment de vous apporter des infos différentes à chaque émission pour que ce ne soit pas un talk, toujours un peu la même chose. Vraiment, c'est une émission à la fois de détente et de divertissement, vous l'avez compris, mais aussi une émission d'information où on apprend des choses qui peuvent nous servir pour notre vie pro, quoi, pour peut-être pour le futur, pour négocier des virages, des moves, changer de voie, ou au contraire, trouver les moyens que ce soit sympa au taf, quoi. Et donc, on changera de thématique à chaque émission, voilà, et on choisira les deux chroniqueurs volants en fonction de la thématique. Voilà. Il y aura les rediffs partout, bien sûr, Lucky, sur ma chaîne Twitch, sur YouTube, il y aura une chaîne YouTube dédiée. Voilà, on mettra des extraits un peu sur les réseaux aussi, quoi. Voilà. Voilà. Alors, certains ont raté, certains sont arrivés trop tard. Alors, écoutez, je vous remets, pour ceux qui sont arrivés en retard, je vous remets la bande-annonce, ok ? Ça me fera plaisir parce qu'elle est trop belle. Alors, elle est où ? Elle est là. Ok, je vous remets la bande-annonce. Désolé pour ceux qui l'ont déjà vu une première fois. Bon, c'est 52 secondes, hein. Ok. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, oh putain, je remercie plus les subs. Merci Bruno Universimu pour le raid. Merci Célimage pour le soutien. Merci Gap Tracker pour le prime. Merci Epsilon pour le deuxième mois. Merci Jérôme 78 pour le prime. Merci Coco Viette pour le 31e mois d'abonnement. Merci Quentin pour les 5 abonnements offerts à la commune. Merci Jules pour le 5e mois d'abonnement. Merci Nexio pour le prime. Merci Oxil The Bee pour le prime. Merci Catchy encore. Désolé, j'avais pas vu les subs. Pardon. Ce sera plus par thème ou par branche d'emploi? Par thème, quoi. Plus par thème. C'est vrai, faut vraiment que ça intéresse tout le monde, quoi. Hein, voilà. Et donc, je vous remets la vidéo. À 10 000 vues déjà. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Donc, le post que j'ai mis sur Twitter. Très heureux de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle émission sur ma chaîne Twitch pour ceux qui l'ont raté. Et tous les réseaux, elle s'appelle MVP, Ma Vie Pro. On va parler de travail, d'emploi, de formation, d'orientation, dans la bonne humeur. Voilà. Rendez-vous le mercredi 4 septembre, vous marquez, hein, à 12h, voilà, sur ma chaîne Twitch pour la première. J'ai hâte. La jolie vidéo, la voilà, je vous la mets plein pot. Let's go. Ça y est, je peux enfin vous en parler de cette nouvelle émission qui arrive le 4 septembre prochain sur ma chaîne Twitch MVP, Ma Vie Pro. C'est le nom de ce nouveau rendez-vous et du média à retrouver sur tous les réseaux sociaux. De quoi ça parle? Eh bien, du monde du travail, sujet dont on parle d'ailleurs souvent sur ma chaîne Twitch. C'est quoi le but? Bien, de découvrir des métiers, de discuter de l'avenir, d'avoir des témoignages de professionnels, passionnés. On va vous aider à trouver votre voie, à vous épanouir dans le monde pro et bien sûr, on passera aussi un bon moment. Rendez-vous donc le 4 septembre prochain. Et d'ici là, j'ai encore une petite surprise.
Eh bien, regardez le décor de cette émission MVP. Il est déjà prêt. Je vous le montre en avant-première. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve super beau.
Cadeau. Bon, maintenant, je vous laisse parce que j'ai une émission à préparer. Et je vous dis à très bientôt.
Wouhou ! Bah, je suis très content, trop fier. Voilà. Non, je n'ai pas enregistré cette vidéo ce matin. C'est juste que les habitués savent, je mets que des t-shirts bleus quasiment tous les jours. Donc, je n'ai pas enregistré cette vidéo ce matin. Cette vidéo est enregistrée il y a plusieurs semaines. Mais j'aime les t-shirts bleu marine. Donc, j'ai le même t-shirt bleu marine en X exemplaires. Voilà, c'est ma couleur préférée. Les amis, je vous abandonne. Ouais, c'est pas cool. Mais j'ai une réunion justement avec l'équipe de MVP. Voilà, pour préparer l'émission de mardi prochain. Voilà. D'ailleurs, s'ils sont dans le chat, les amis, sachez que je vous abandonnerai à 12h55 parce que j'ai rendez-vous avec mon petit neveu qui rentre en école d'ingénieur et il doit récupérer des trucs à la maison. Merci d'avoir été si nombreux. Merci du retour sur l'émission. J'ai l'impression que ça vous plaît plutôt. Je suis content. Venez voir la première mardi prochain à midi, sachant que je ferai une revue de presse avant. On enchaînera. Voilà. Et en vrai, pour connaître les équipes qui font cette émission, pour avoir réfléchi pendant un an sur cette émission, pour avoir fait un premier numéro, un pilote, vraiment dans les conditions du direct, et pour voir ce qu'elle avait donné, je sais que ça va être sympa. Je dis mardi ? C'est mercredi, ouais. Putain, le manque de rigueur du présentateur. Ce sera tous les mercredis, de toute façon. Mercredi prochain, le 4 septembre, à 12h. Voilà. Soyez là, ça vous plaira. J'espère, et de toute façon, on est sur Twitch, donc vous nous dites dans le chat si ça vous plaît. Vous m'envoyez des messages en DM sur les réseaux pour me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on peut l'améliorer. On n'est pas à la télé. Hein. D'accord, ok. Donc c'est mercredi 4 septembre à 12h. Et avant, il y aura une revue de presse. À chaque fois, il y aura une revue de presse. Voilà. Pas mal, hein. Allez, merci. On se trouve peut-être cet après-midi pour du Valo aussi. Ok. Allez, qui est en live, fasse un petit raid là. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, bon, j'ai déjà une petite envie là. Je sais le varier les plaisirs au niveau des raids. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai trop de gens dont j'aime le travail. Ok, j'ai une petite envie. Quoi? Attendez, vous me faites une propale que j'ai pas la ref. Ah, oh, bah si, je le suis déjà. Ouais. Non, j'avais une autre envie ce matin. Parce que je vois que l'ami Zach Nanier est en live. Et Zach, j'ai pas eu l'occasion de le féliciter pour son marathon des Jeux Olympiques. Hein, sachez que bon, Zach, il a fait un truc de fou. Il est parti de zéro en course à pied
pour se lancer le défi de faire un marathon. Il a tryhardé de fou, il s'est imposé un programme d'entraînement incroyable, il a fait un truc de fou, il a couru le marathon des Jeux Olympiques de Paris 2024, voilà. Je trouve ça très très beau, j'ai pas eu l'occasion de le féliciter, eh bien allons le féliciter les amis, il est en live là, je charge le raid et je vous dis à cet après-midi. Zach, c'est parti, voilà. Et dites-lui bravo pour le marathon, c'est incroyable ce qu'il a fait, c'est un grand bonhomme et en plus il est super sympa. Je charge le raid, il est en pleine forme, il est beau le Zach, il est beau, on sent le marathonien, hein. On voit le grand sportif, hein. il a le haki. À tout à l'heure, merci pour ce matin, c'était cool, on a passé un bon moment, ciao ciao, bye.
Quand ça l'avait interrogé sur ses passages en prison, il avait répondu Nelson Mandela aussi, elle est en prison, ça veut rien dire. Bravo pour le marathon, oh, les raideurs de chez Samuel. Merci pour le raid, monsieur Samuel Etienne. Grand bonhomme et merci pour vos GG. La vidéo marathon sort cette semaine. Elle sort cette semaine ou pas, Hugo? On a eu des news? Ouais.